Restons debout un petit instant maintenant pour prier. Combien de personnes ici ont une requête dans leur cœur en voulant que Dieu fasse quelque chose de spécial pour vous pendant cette convention? Maintenant, courbons la tête devant lui. Père Céleste, nous sommes un peuple privilégié d'être rassemblés ici au nom du Seigneur Jésus dans un pays libre où nous pouvons t'adorer selon ce que nous dicte notre conscience jusqu'à présent. Et nous prions, Père, qu'il en soit longtemps ainsi. Et maintenant, puissions-nous profiter de ce grand privilège que nous avons. Puissions-nous mettre tout notre cœur dans la réunion de ce soir à t'adorer, pour qu'on puisse dire que Dieu était au milieu de nous ce soir, bénissant son peuple. Sauve chaque âme perdue qui est ici ce soir, Seigneur. Et tous les rétrogrades puissent-ils revenir à la maison de Dieu. Je prie que tous les malades soient guéris, que les affligés marchent, que les aveugles voient, que les sourds entendent. Que la louange et la gloire soient données à Jésus-Christ au milieu de son peuple. Qu'on se souvienne souvent et longtemps, Seigneur, parce que nous nous sommes rassemblés et que nous avons demandé ces bénédictions au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. D'une manière ou l'autre, quand j'arrive au Ramadan, en un sens, c'est toujours un peu comme de rentrer à la maison, parce que j'y suis tellement venu que je pense qu'ils doivent vraiment commencer à me connaître. Et j'en suis bien content parce que j'ai trouvé un groupe de gens formidables dans ces hôtels Ramada, celui de Tucson et ici. Les gens ont été vraiment gentils de nous permettre de faire ces réunions. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une de mes propres réunions au Ramada et les gérants n'ont même pas voulu que je paye la location de la salle. C'est vraiment gentil. Je m'en souviens quand je voyage dans différents pays aussi. Là, des gens, ceux qui sont bons envers la famille de Dieu. Maintenant, depuis dimanche soir, ou plutôt depuis dimanche après-midi, nous avons passé des moments bénis dans le Seigneur, ou moi du moins, j'ai passé des moments merveilleux dans ses bénédictions et la communion du Saint-Esprit et avec son peuple. J'aime garder à l'esprit qu'ensemble, nous adorons Dieu. Vous êtes un attribut de Dieu, une partie de Dieu, quand vous devenez un fils ou une fille de Dieu. Et Dieu est en vous. Il veut accomplir sa volonté pourvu que vous le laissiez faire. Alors nous espérons ce soir que chaque personne oubliera les choses qui ont rempli ces journées, qu'on laissera tout cela de côté pour mettre notre cœur dans la réunion. Pas seulement ce soir, mais tout au long de la convention qui va suivre. Sans doute que beaucoup de délégués se sont rassemblés. Effectivement, je vois quelques personnes de plus sur l'estrade ce soir qui se rassemblent pour la convention qui commence demain. Et je demanderai aux gens qui sont ici pour le réveil que nous venons d'avoir, si vous le pouvez, j'aimerais que vous restiez pour la convention. Il y aura de très bons prédicateurs. Un frère n'a pas pu venir, mais il y en aura beaucoup ici pour le remplacer. Moi-même, je veux être là pendant toute la convention pour apprécier la communion fraternelle. Vous savez, nous montons sur l'estrade, nous les prédicateurs, et nous prêchons. Et nous sommes toujours là à donner aux gens tout ce qu'il y a en nous. Une fois, j'ai prêché sur un sujet où Jésus avait dit, « Considérez le lys. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. » Et je vois que le lys doit croître jour et nuit, filer, travailler pour être radieux. Mais il n'en retire aucune bénédiction pour lui-même. Il s'ouvre et le passant respire son parfum. L'abeille va chercher le miel qu'il a dans son cœur. Tout ce qu'il a acquis au prix de son travail, il le donne. Et c'est le titre que je donne à mon message, Monsieur Révérend Lys. Alors, c'est un sujet assez étrange. Mais c'est ça, les prédicateurs se donnent aux gens. Et alors, il est bon de s'asseoir et d'écouter les autres. C'est comme se chauffer près du feu. Nous aimons nous asseoir à la flamme les uns des autres et nous réchauffer le cœur de l'Évangile que nos frères prêchent aux gens. Et je suis reconnaissant d'avoir l'occasion de le faire. Et maintenant, J'espère que ce soir, Billy m'a dit qu'il avait distribué des cartes de prière, tout ce qu'il avait. Nous ne pourrions pas voir une ligne de prière, même s'il le fallait. Voyez-vous, il faudrait que vous sortiez en faisant le détour par là, traverser un couloir sombre et arriver ici en bousculant tout. Ceux qui sont affligés et ceux qui sont infirmes seraient très mal en point d'avoir à faire cela. Mais nous ne savons pas ce que le Seigneur pourrait faire. Il se peut qu'il descende directement au milieu de nous ce soir et qu'il guérisse tous ceux qui sont ici de toute maladie. Oh, j'aimerais mieux voir ça que toute la ligne de prière que j'ai eue dans ma vie. Juste de voir la souveraineté de Dieu descendre au milieu de ses enfants obéissants. C'est ce que j'aime toujours. Généralement, si on a un contact personnel avec les gens, par exemple l'imposition des mains, il est possible, je ne pense pas qu'il y en aurait beaucoup qui le feraient, que certains disent « tel prédicateur m'a imposé les mains et gloire à Dieu ». En faisant comme ça, alors les gens regardent à ce prédicateur-là. Mais si on peut simplement se tenir ici, prêcher la parole et laisser le Saint-Esprit guérir chacun, alors c'est absolument la grâce de Dieu. Et alors, Dieu en reçoit toute la louange, toute la gloire, et il n'y a pas l'ombre de quoi que ce soit pour personne d'autre. C'est comme ça que, dans mon ministère, je ne réussis pas à atteindre beaucoup de personnes, à moins. Bon, hier soir, nous avons essayé de prier pour le plus possible, mais quant à l'imposition des mains, c'est généralement le soir, peut-être que le Saint-Esprit pourrait tout simplement venir au milieu de nous et commencer à se manifester, à se révéler parmi nous. Et c'est comme ça, je pense, que c'est réel. Quand il peut agir par souveraineté, voyez-vous, moi, je ne peux pas dire cet homme-ci ou cette femme-ci ou cet enfant-là, voyez-vous. C'est le Saint-Esprit qui se déplace dans la salle et qui parle à celui à qui il veut parler. Voyez-vous, ça, c'est souverain. Et alors, c'est comme ça que la connaissance vient, parce que c'est une promesse de Dieu, et c'est comme ça que la connaissance de Dieu vient dans sa souveraineté, et aussi cela amène sa présence parmi nous. Nous devrions le voir et nous réjouir. Et peu importe, vous dites, eh bien, j'avais une main infirme, j'étais là hier soir, je ne vais pas mieux. Ça n'a absolument aucun rapport. Pour vous, c'est déjà terminé. Vous ne regardez pas votre main à ce moment-là, vous regardez une promesse, voyez-vous. Par conséquent, vous ne pouvez pas dire, eh bien, frère, un tel n'a pas prié la prière de la foi ou telle personne. C'est la présence du Seigneur qui vous a donné la foi, voyez-vous. Et alors, il a envoyé sa parole et il les a guéris. Maintenant, hier soir, j'ai encore manqué à ma promesse. Je vais vraiment essayer de la tenir ce soir, si je peux. Bon, quelqu'un disait, vous ne vous êtes pas tenu à votre sujet hier soir. Non, je ne m'y suis pas tenu parce que, je vais vous dire pourquoi. J'avais l'intention de prêcher sur un sujet, je ne me souviens plus exactement quoi maintenant, mais Dieu riche en miséricorde. Et je me suis mis à essayer d'expliquer ce que Paul avait dit là, quand il avait dit, nous qui, autrefois, à un moment donné, à un autre moment que maintenant, nous étions morts dans le péché et les transgressions, Dieu nous a vivifiés, rendus à la vie. Bon, voyez-vous, avant que quelque chose puisse être vivifié, il faut qu'il y ait quelque chose là pour le vivifier, c'est exact. Donc, si vous étiez dans la préscience de Dieu, alors, vous devenez une partie de Dieu, et le seul moyen pour vous d'être un fils de Dieu ou une fille de Dieu, c'est que vous deviez être une partie de Dieu, et Dieu n'est pas complet sans vous. Forcément, c'est exact. Parce qu'il y a une seule source de vie éternelle, et c'est Dieu, et lui seul a la vie éternelle, voyez? Donc, et vous étiez une partie de lui, en ce sens que vous êtes un attribut, ou que vous étiez dans sa pensée au commencement. Et c'est à cause de ça, parce qu'il a pensé à vous au commencement, et cela donne cette petite traction vers vous. C'est cela qui doit être vivifié. Certains ne seront jamais vivifiés. Ce n'est tout simplement pas en eux, à point c'est tout. C'est comme si vous mettiez un grain de maïs en terre, il aurait beau avoir une très belle apparence, il n'y a pas en lui le germe de vie, il ne pourra jamais être vivifié. Mais le germe de vie doit d'abord se trouver là. Et j'ai pris la petite histoire de cet aigle qui circulait avec les poules et les poulets parce qu'il avait éclos et qu'il était né là-bas. Mais il ne se sentait pas être un poulet. Et vous savez, quand sa maman est passée et qu'elle a poussé son cri, il a entendu une voix qui lui plaisait vraiment parce qu'il était un aigle dès le départ. Tout ce qu'il lui fallait faire, c'est de se retrouver, trouver sa place. Et c'est comme ça pour chaque croyant. Vous n'êtes pas né pour ce monde-ci. Vous avez été créé à l'image de Dieu pour être un fils de Dieu. Et vous n'êtes pas à votre place dans cette basse-cour ici. Vous êtes un aigle. Vous savez, je me suis mis à parler de cette aigle et je n'arrivais plus à revenir sur terre. Alors j'ai prêché trop longtemps et puis j'ai oublié mon sujet. J'ai perdu mes notes et tout le reste, c'était vraiment quelque chose. Mais c'est ça, en parlant de cet aigle. Maintenant, puisse cet aigle, Dieu, vous savez, Dieu compare ses prophètes à des aigles et il s'appelle lui-même un aigle. Il est l'aigle Jéhovah, Papa Aigle. Et s'il se donne ce nom, c'est parce que l'aigle peut voler plus haut que tous les oiseaux et parce qu'il est conçu différemment de tous les autres oiseaux. Maintenant, il ne construit pas son nid sur le sol comme les poules et tout, mais il va dans les hauteurs pour y construire son nid. Et autre chose, c'est un oiseau bâti d'une manière spéciale. Si un faucon ou un corbeau ou une buse ou n'importe quel autre oiseau essayait de le suivre dans les cieux, il se désintégrerait. Il n'est pas conçu pour ça. Il faut être quelqu'un de spécial pour monter là-haut. Ses plumes sont fixées plus solidement que tous les autres oiseaux. Et son œil est plus perçant que celui de tous les autres oiseaux. Et plus il monte haut, plus il peut voir loin. Eh bien, certains oiseaux, quand ils arrivent à la hauteur où ils devraient être, ils sont aussi aveugles qu'une chauve-souris. Et c'est pareil. Eh bien, quand ils se détachent de leur credo, alors ils n'en savent rien. Les jours des miracles sont passés. Pourquoi? Ils ne peuvent pas le voir. Mais les aigles peuvent monter jusque dans les cieux et les cieux des cieux là-haut. Ça sert à quoi de monter jusque-là si vous ne pouvez pas voir? Oh, je suis si heureux d'être l'un d'entre eux et de m'associer maintenant avec tout un nid rempli de ces aigles. Prenons dans l'Ancien Testament le livre des Proverbes, écrit par Salomon, l'un des hommes les plus sages du monde après notre Seigneur Jésus. Mais lui n'était pas tout à fait comme Salomon, en ce sens que Salomon était un homme né d'une femme et qui avait été engendré par un père terrestre, David. Mais Jésus était un fils né d'une vierge et il n'était pas seulement un homme, mais il était Dieu, l'homme Dieu. Il était plus qu'un homme. Il était un homme plus. Mais Salomon était seulement un homme, comme vous et moi. Et il a demandé à Dieu la sagesse pour diriger son royaume. Et il a eu un don de sagesse, l'homme le plus intelligent qu'on ait jamais connu, après notre Seigneur. Il a écrit les Proverbes, et je trouve qu'ils sont vraiment bien. Et maintenant, nous allons prendre le livre des Proverbes, au chapitre 1, ou plutôt au chapitre 2, et les premiers versets de Proverbes, Proverbe 2, à partir de 1, Proverbe 2, la suite des conseils que Salomon donne à ses fils. Mon fils, si tu reçois, excusez-moi, c'est Proverbe 3, 1. Excusez-moi, j'ai regardé ici dans mon livre, et je vois que c'est Proverbe 3 plutôt que 1 ou 2. Excusez-moi. Proverbe 3, verset 1. « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils augmenteront la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix. Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Tu acquerras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira ton sentier. » Oh, je trouve que c'est vraiment le plus beau passage de l'Écriture. Maintenant, j'aimerais prendre comme sujet, tiré du verset 5, « Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Maintenant, voilà un sujet très étrange pour le jour où nous vivons, parce qu'aujourd'hui, certainement, qu'on met beaucoup l'accent sur l'instruction et sur notre propre intelligence des choses. Et nous voyons que cette déclaration étrange ici, comme d'autres passages des Écritures, elle a sa place, et nous faisons confiance à Dieu qu'il nous fera voir quelle est sa place. Aujourd'hui, nous envoyons nos enfants à l'école pour qu'ils acquièrent de l'intelligence. Une fois l'école primaire terminée, nous les envoyons à l'école secondaire pour qu'ils aient une meilleure intelligence côté connaissances. Et une fois ces études-là terminées, certains enfants ont même la chance d'aller à l'université. Ils vont à l'université pour parfaire leurs études et leur intelligence, leurs connaissances. C'est ce qu'on exige d'eux. Souvent, pour obtenir un emploi, il faut avoir fait au moins des études secondaires ou des études supérieures et tout. Pourtant, le sage Salomon nous a dit de ne pas nous appuyer là-dessus, pas sur notre propre intelligence. Ne recevez pas vos instructions de ces choses-là. Nous nous demandons pourquoi il dirait une chose pareille. C'est parce que, généralement, notre intelligence moderne correspond à la sagesse de l'homme, ce qui est contraire à la parole de Dieu. Je pense que le conseil que Salomon essayait de donner à ses fils, ce n'était pas d'être illettré, mais de ne pas s'appuyer sur leur intelligence. Et je trouve que ce serait une bonne exhortation aujourd'hui si nous disions en nos fils et aux fils de Dieu que c'est très bien d'avoir de l'instruction, il n'y a rien contre ça. Mais quand cette instruction est contraire à la parole de Dieu, alors appuyez-vous sur la parole et laissez tomber votre instruction. Voyez-vous, à cause de la parole, l'instruction va vous servir, va vous donner un bon emploi, vous serez probablement bien vu des gens intellectuels, et c'est en ordre, ça vous aidera probablement beaucoup, ça vous aidera du côté financier et du côté de vos moyens d'existence, vous vivrez peut-être un peu mieux. Mais souviens-toi d'une chose, mon fils, tu devras mourir. Peu importe toutes les études que vous avez pu faire, toute la culture que vous avez pu accumuler, vous devrez quand même faire face à la mort. Parce qu'il est écrit que l'homme doit mourir, après quoi vient le jugement. La mort, ce n'est pas si grave, mais de passer en jugement, c'est ça qui est grave. Bon, vous pouvez mourir, mais après quoi vient le jugement? Et Dieu ne va pas vous demander combien d'études vous avez faites quand vous étiez sur Terre, combien de connaissances vous avez accumulées. Si vous avez le titre de bachelier en art ou le diplôme que vous avez bien pu avoir, même en tant que prédicateur, ce n'est pas là-dessus qu'on vous demandera des comptes. Mais on vous demandera des comptes sur ce que vous avez fait de votre entendement de la parole de Dieu. Ce sera ça l'exigence. En effet, votre instruction, c'est bien, mais la parole de Dieu, c'est la vie. Ma parole est vie. Et la connaître, c'est la vie. Et il a dit, de le connaître, lui, il est la parole. Alors vous ne pouvez le connaître que par la parole, car il est la parole. Et c'est le seul moyen pour vous de le connaître, c'est par sa parole. Quelqu'un pourrait se présenter et dire, ceci c'est Dieu, ça c'est Dieu, ou ceci c'est juste, et ça c'est juste. Mais nous revenons à la parole, qui est la vérité. La parole, c'est exactement comme l'étoile polaire. C'est une vraie étoile. Peu importe de quel côté le monde peut flotter, l'étoile polaire est centrée par rapport à la Terre. Vous réglez votre boussole sur l'étoile polaire. Celle-ci est toujours au centre par rapport à la Terre. Les autres étoiles se déplacent avec le monde, mais l'étoile polaire reste stable. Maintenant, la boussole, c'est le Saint-Esprit. Et votre poteau d'attache, ce serait l'étoile polaire. Alors le Saint-Esprit vous dirigera toujours vers la parole. Le Saint-Esprit ne vous conduira jamais vers quoi que ce soit d'autre que la parole de Dieu. Alors comment un homme pourrait-il accepter un credo? Alors que c'est contraire à la parole. Et continuez quand même à prétendre avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous dirigerait dans une direction opposée à celle-là. Il faut le Saint-Esprit pour vous diriger vers la parole. Car il est la parole. Il est la parole. Et de même que l'aiguille aimantée de la boussole peut seulement se diriger vers le pôle nord, elle ne peut être attirée que dans cette direction-là. Ainsi comme le Saint-Esprit est l'auteur de la parole et celui qui l'a écrite et qui la vivifie, Comment peut-il diriger la personne vers quoi que ce soit d'autre que la parole? Alors quand quelqu'un prétend avoir le Saint-Esprit et qu'ils acceptent quelque chose qui est contraire à la parole, on peut voir que ce n'est pas le véritable Saint-Esprit qu'ils ont, voyez. Ça pourrait être un esprit, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas le Saint-Esprit de Christ. Maintenant, vous savez, très souvent, les gens prennent les esprits les uns des autres. Et alors, avec ça, ils pourraient être dirigés comme un groupe d'hommes vers une certaine chose. Mais ils ne seront pas dirigés vers Christ. Mais le Saint-Esprit, lui, il dirige toujours vers Christ, et Christ est la parole. C'est ce que nous voyons très clairement dans la Bible. Enfin, moi, je le vois. Il se pourrait peut-être que je me trompe dans ma pensée. Mais je ne pense pas. À cause de ceci, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence des choses. Si vous vous appuyez sur votre propre intelligence, alors forcément que vous sortirez du bon chemin. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur l'intelligence de personne d'autre quand il est question de la vie. Pour trouver la vie, vous devez vous appuyer sur la parole. C'est la vie. C'est ce que nous voyons dès le commencement. Il nous est montré très clairement, dès le commencement, que Dieu a donné à sa première famille sur la terre sa parole pour qu'elle en vive. Uniquement de sa parole. Bon, ce n'est pas en mangeant de la nourriture et tout, mais c'est de sa parole qu'ils devaient vivre éternellement. Et tant qu'ils restaient fidèles à la parole, ils vivaient éternellement. Mais dès qu'un petit bout de phrase de cette parole a été mal placée, toute la chaîne a été rompue et l'espèce humaine a été précipitée dans la mort. Voyez. Maintenant, remarquons. Ève, qui était sans doute une personne intelligente, la première qui est venue directement d'Adam, lequel était le Fils de Dieu, et Ève, certainement, que comme elle se trouvait dans cette position où il n'y avait pas de péché, aucune place pour le péché, certainement qu'elle devait avoir une conception merveilleuse de ce que Dieu était. En effet, tous les après-midi, elle et son mari se promenaient dans la fraîcheur du jardin le soir et ils parlaient avec Dieu face à face. Comme c'était une chose déraisonnable qu'une personne qui marchait avec Dieu face à face tous les jours se tourne ensuite vers un raisonnement, quelque chose qui l'a fait raisonner pour la détourner de la parole de Dieu. C'est ce que nous avons encore aujourd'hui. Un raisonnement peut si facilement les détourner de la parole de Dieu après s'être trouvé dans la présence de Dieu. Ils voient la parole de Dieu qui est prêchée, la parole de Dieu qui est manifestée, des ivrognes et des pécheurs qui viennent à l'autel et se convertissent, qui deviennent de nouvelles créatures en Christ, des gens de mauvaise vie qui sont transformés en dames et en gentlemen. Et ensuite, ils se détournent de cette chose bénie qui les a conduits à cette vie et ils se pervertissent en s'appuyant sur un credo quelconque pour être plus populaire ou pour s'intégrer dans ce qu'ils appellent une meilleure classe de gens. Voyons, vous êtes dans la meilleure classe qui existe, des fils et des filles de Dieu. Eh bien, moi, je préfère cette compagnie-là à celle de tous les rois et de tous les pontentats et de tout le reste. Pour moi, rien ne vaut ce groupe de gens humbles, même s'ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Tant qu'ils connaissent Dieu, qu'ils l'aiment et qu'ils le servent, ce sont eux les célébrités du ciel pour moi. Oui, monsieur. Mais nous voyons qu'Ève s'est laissée facilement convaincre par Satan de se détourner de la parole de Dieu et elle s'est appuyée sur sa propre intelligence. En effet, Satan lui avait présenté quelque chose qui ne correspondait pas à ce qu'elle comprenait vraiment de Dieu. Mais il lui a été dit autre chose par l'ennemi, Satan, et elle l'a cru. Maintenant, nous en voyons les résultats. Cela a plongé toute l'espèce humaine dans la mort. Parce que la première mère sur la terre s'est appuyée sur sa propre intelligence, quelque chose de contraire à la parole de Dieu, et elle a plongé toute l'espèce humaine dans la mort. Maintenant, croyez-vous ça? C'est la parole. Eh bien, la femme est toujours... L'Église dans la Bible est typifiée par la femme. Et aujourd'hui, une Église qui peut accepter une série de dogmes ou de credos et plonger toute l'Assemblée dans la séparation d'avec Dieu. Ces gens qui adoptent ces choses plutôt que la parole de Dieu, ils sont exactement comme Ève, et c'est ce qui est arrivé bien souvent, si bien que toute cette génération a été plongée loin de la parole de Dieu. Et quand la parole est manifestée, que la parole est révélée, ils ne veulent pas l'accepter. Ils ne veulent pas parce qu'ils s'appuient sur leur propre intelligence. Cette église a été construite ici, c'est un bâtiment magnifique, c'est une grande organisation, elle est membre d'un corps, grand corps de gens, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas en faire partie? Je vais m'appuyer dessus. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence, mais appuyez-vous sur la parole du Seigneur. Donc finalement, toute l'espèce est retrouvée dans la mort. Comme je le disais, c'est la même chose maintenant pour les nombreuses personnes qui se reposent sur leur propre intelligence, sur leurs dogmes et leurs credos et tout, en déclarant que la parole de Dieu n'est pas entièrement vraie, qu'une partie est inspirée, qu'une autre partie ne l'est pas. Comment pouvez-vous avoir la foi dans une Bible dont une partie est inspirée et l'autre pas? Si une seule citation est fausse, alors toute la chose pourrait être fausse. Il faut qu'elle soit toute vraie, exactement vraie. Et certaines de ces soi-disant écoles bibliques perverties qui enseignent la connaissance humaine, une accumulation où on se réunit en conseil, on dit, maintenant écoutez, si les jours des miracles, eh bien ils ont pris fin aux jours des apôtres. Et bien des hommes qui relèvent de l'évêque ou des hommes haut placés s'assieront là et ils diront, eh bien, si je peux seulement être d'accord avec lui, sans doute peut-être que je pourrais lui succéder. Vous voyez, alors vous vous appuyez sur votre propre intelligence au lieu de vous tenir debout pour défendre la parole de Dieu. C'est ce qui cause ces choses. Il y a quelque temps, j'ai eu un litige pour une affaire d'impôt. Et il disait, mais vos administrateurs ne sont que des marionnettes, j'imagine. J'ai dit, si j'avais sur le conseil un administrateur qui ne soit pas du même avis et qui ne se lève pas, quel que soit celui qui parlerait sur le sujet pour exprimer son opinion personnelle, je l'exclurais du conseil. Oui, monsieur. Même si ça allait à l'encontre de ce que moi je crois, je voudrais qu'il exprime ce que lui pense, qui est juste. C'est pour ça que je l'ai placé là, pour voir ce qu'il en dira. Et c'est ce que nous avons. Jésus a dit dans Saint Jean 10, « Mes brebis connaissent ma voix. » Une voix, bien sûr, c'est sa parole quand il parle. « Mes brebis connaissent ma voix. » Elles ont eu la preuve que ma voix est la vraie. Elle a été confirmée, comme quoi il s'agit bien de ma voix. Maintenant, remarquez, ils ne sont pas sujets à suivre aucune autre voix. Ils ne le feront pas. Mes brebis connaissent ma voix. Et elles ne suivront pas un étranger. Autrement dit, elles ne comprendront pas une voix théologique qui donne un enseignement contraire à la parole. Les brebis ne comprennent pas ça. Pas plus que l'aigle d'hier soir ne pouvait comprendre le gloussement de la poule. Elles ne le comprennent pas, parce qu'il était un aigle. Et c'est pareil pour un véritable enfant de Dieu né de nouveau. Ils comprennent seulement les choses qui sont de Dieu. Maintenant, quelqu'un dirait, eh bien, écoute, là, tu pourrais faire ceci, je pense. C'est, je crois que ce n'est pas comme ceci, je crois que les jours des miracles sont passés. Je ne crois pas que c'est la guérison divine, je ne crois pas ceci. Maintenant, un véritable chrétien de nouveau, ses oreilles ne retiendront jamais ça. Il ne le comprend pas. Et comment un homme qui croit en Dieu et qui peut lire la Bible et voir qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, peut-il accepter une telle chose? Je ne le comprends pas. Donc, ils ne s'appuient pas sur leur propre intelligence. Comme par exemple un bébé. Prenez un petit bébé qui est né et qui s'est appuyé une fois sur le sein de sa mère, qui a tété son lait chaud, appuyé sa petite tête sur son sein, même s'il n'est âgé que de quelques heures. Un jour ou deux plus tard, retirez-lui sa mère et remettez-le au sein d'une mère étrangère. Il va lancer les pieds en l'air et hurler. Ce n'est pas sa mère. Voyez-vous? Il a déjà en lui quelque chose parce qu'il est une partie de cette mère. Déjà, la nature lui a fourni un moyen de reconnaître sa propre maman. Et si la nature a fourni au bébé le moyen de reconnaître sa mère qui lui a donné naissance, combien plus à un fils de Dieu qui est né de l'Esprit de Dieu? Il connaît sa maman. Il sait parce qu'il est né de la parole. Et il comprend la parole. Mettez-le dans un lieu étranger et certainement qu'il ne sera pas à sa place. Il sortira de là à toute vitesse. Parce qu'il ne s'appuie pas, quelqu'un dira, « Attends là, mon chéri, c'est elle ta maman à présent. » Ce n'est pas sa maman parce qu'il a un moyen de reconnaître qu'il est une partie de cette mère-là. C'est sa mère, personne d'autre ne pourra jamais la remplacer. Il reconnaît sa propre mère. Remarquez, comme c'est vraiment le cas, que Dieu a créé toutes choses selon son espèce. Le bétail selon son espèce. Souvent, quand nous faisions le rassemblement du bétail, nous rabattions des troupeaux et les petits veaux. Je me demandais comment ils feraient pour reconnaître leur maman. Elles descendaient des montagnes, toutes les bêtes mélangées, une vache qui est avec le veau, un petit veau affamé peut-être qu'il pourra téter un peu une autre mère s'il est vraiment affamé. Mais quand nous les arrêtons là dans la plaine, la maman va chercher son petit dans ce rassemblement de vaches et de veaux jusqu'à ce qu'elle le trouve et le veau court trouver sa mère. Elle connaît son petit gémissement et lui, il connaît son mugissement. Elle mugit parce qu'elle veut son veau et les autres mères mugissent si bien qu'on ne s'entend même plus penser. Mais ce petit veau va aller vers cet appel particulier de sa mère parce qu'il fait partie de cette mère. Et un chrétien né de nouveau du ciel, il est une partie de cette parole. Exact. Il ne suivra pas une autre maman. Il est une partie de la parole. Il s'en tient à la parole. Si la trompette rend un son confus, qui pourra se préparer au combat, a dit Paul. Il connaît le son de la parole. Remarquez ce qu'il en est. La main prédestinée de Dieu qui est avec eux du début à la fin. Il sait qu'il a été destiné à cela, qu'il s'est trouvé dans la vérité de l'Évangile. Il sait qu'il est né de l'Esprit de Dieu. Il sait que l'Esprit de Dieu ne peut pas nier la parole de Dieu. Par conséquent, il ne suivra pas un étranger. Remarquez. Je regardais une note ici que j'avais écrite là. Je n'y avais pas fait attention. Mais quand mes yeux sont tombés sur le passage de l'Écriture, j'ai pensé y faire référence. Remarquez comment ces brebis prédestinées l'ont suivi à l'époque même des plus grands théologiens qu'on ait jamais eu. Ils sont sortis sans hésiter parce qu'ils l'ont reconnu. Ils savaient ce que la parole avait promis pour ce jour-là. Ils savaient à quoi ressemblerait le Messie quand il viendrait. Et Simon-Pierre est venu vers lui. À ce moment-là, il n'était encore que Simon. André avait essayé de lui en parler. Cet homme est le Messie. Bon, Simon, évidemment, il était peut-être un peu entêté, il ne voulait pas y aller. Mais quand il s'est avancé dans la présence de Jésus, quand Jésus a dit, « Tu t'appelles Simon et tu es le fils de Jonas. » Maintenant, nous savons que Jésus a dit à ses apôtres qu'il les connaissait avant la fondation du monde. Ils étaient les attributs de ses pensées. Par conséquent, comme cette semence reposait en lui et qu'il savait que la parole l'avait annoncé et que la promesse avait été faite que le Messie serait un prophète, quand il a vu cela, eh bien la pêche était terminée pour lui. Il savait alors qu'il allait déposer ses filets parce qu'il allait devenir pêcheur d'hommes. Maintenant, d'autres personnes s'étaient tenues là, elles avaient vu la même chose et pour elles, c'était un mauvais esprit. C'était les théologiens parce que ça ne correspondait pas au goût de leur enseignement théologique. Et ils l'ont rejeté parce qu'ils s'appuyaient sur leur propre intelligence des choses, celle de leur docteur. Alors que Jésus-Christ était venu, accomplissant la parole promise, ils étaient trop aveugles pour le voir. Ils se sont appuyés sur ce que le sacrificateur disait et sur ce que l'Église disait, plutôt que sur ce que Dieu disait. Maintenant, Jésus les a réprimandés à cause de ça. Il a dit, « Sondez les Écritures, car vous prétendez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ces Écritures que je vous demande de sonder, elles vous disent qui je suis. Mais ils ne voulaient pas s'appuyer sur ce que la parole disait. Ils s'appuyaient plutôt sur leur intelligence de ces choses. Ils s'appuyaient sur leur propre intelligence. Et l'Écriture nous dit qu'ils étaient voilés. Le voile de leur propre théologie les avait aveuglés. Vous dites, Frère Branham, où voulez-vous en venir? Voici où je veux en venir. Cette chose-là est en train de se passer de nouveau. C'en est au point où des hommes et des femmes et des gens vont s'appuyer sur une certaine église à laquelle ils ont adhéré et dont ils font partie. Peu importe ce que la parole de Dieu en dit, ils continuent là en s'appuyant sur leur propre intelligence et en ne tenant aucun compte de la parole de Dieu comme si elle n'avait jamais été écrite. C'est une semence de vie humaine qui n'a pas germé. La vie physique est là, mais il n'y a pas de vie spirituelle à l'intérieur qui puisse être vivifiée. Le voile couvrait leur visage. Maintenant, remarquez, ils avaient leurs propres pensées de ce que Dieu devait être, ils avaient leurs propres idées de ce que le Messie devrait être, mais la parole disait ce que le Messie devrait être. Alors voyez-vous, ils avaient leur propre intelligence de ce qu'il serait. Sans doute que le souverain sacrificateur disait, « Tous mes sacrificateurs sous mes ordres, quand le Messie viendra, nous avons construit un grand temple ici, nous avons fait tout ceci, et la Bible dit qu'il entrera soudainement dans son temple et toutes ces choses. Quand il le fera, le Messie viendra directement ici, et il se fera connaître au milieu de nous. Il dira, « Je suis le Messie, je suis arrivé, je suis ce Messie que vous attendiez. » Eh bien, quand il est effectivement venu, il est venu d'une manière tellement différente de leur pensée qu'ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'ont pas su qui il était. Que se serait-il passé si un hypocrite s'était présenté là et qu'il avait dit, « Je suis le Messie, je suis le docteur untel. » Ils l'auraient accepté. Mais quand on est venu vers un homme qui était né d'une naissance douteuse, qui n'avait reçu aucune instruction dans aucune école qu'il aurait fréquentée, il n'avait aucune expérience de séminaire, aucune carte de membre, mais il était l'interprétation de la parole de Dieu manifestée. Les œuvres que je fais vous déclarent qui je suis. Si je ne fais pas les œuvres dont il avait été promis que je les ferais, alors ne me croyez pas. Ne pourrions-nous pas appliquer ça à ce jour-ci? Quand le Saint-Esprit vient, il veut l'appliquer ça à un autre âge. Quand il vient avec l'action et les démonstrations de sa puissance de vie éternelle, les gens veulent accepter ça du fanatisme sauvage. Pourquoi? Ils s'appuient sur leur propre intelligence et non sur la parole du Seigneur. Vous savez que c'est vrai. L'identification, l'interprétation que Dieu donne lui-même, c'est la manifestation de la promesse. Peut-être que je vais le dire pour que ce soit encore un peu plus clair. Quand Dieu prononce la parole, il n'a pas besoin d'aucun homme, d'aucune femme, ni de personne d'autre pour en donner le sens. Eh bien, vous dites, Dieu, c'est ceci qu'il a voulu dire, Dieu, ce qu'il veut dire. Il le dit, c'est exactement ce qu'il veut dire, voyez. Maintenant, comment interprète-t-il sa propre parole? En l'accomplissant. La Bible dit, une vierge concevra. Et elle l'a fait. Ça ne demande aucune interprétation. Dieu a dit qu'il y ait de la lumière, et il y en a eu. Ça ne demande aucune interprétation. Dieu a aussi dit qu'en ces derniers jours, il répandrait son esprit sur toute chair. Et il l'a fait. Ça ne demande aucune interprétation. Tout ce que ça demande, c'est une acceptation. Quelqu'un qui acceptera ce que Dieu a fait. Ça ne demande pas d'interprétation. Dieu interprète sa propre parole. Dieu a promis ces choses que nous voyons jour après jour. Il a promis de les accomplir au dernier jour. Les gens d'aujourd'hui, comme à cette époque-là, ils s'appuient sur leur propre intelligence. Mon pasteur dit que c'est du fanatisme. Mais la Bible dit que ces choses se produiraient. Vous allez vous appuyer sur l'intelligence de qui? La Bible a promis que dans les derniers jours, l'âge de l'Église de Laodicée, je serai tellement enrichi et qu'il se suffirait à lui-même. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Je suis assise comme une reine. Elle est riche. Et il a dit, tu ne sais pas que tu es misérable. Maintenant, ça, c'est l'âge de l'Église en entier. L'Église. À l'Église de Laodicée. Tu es nu, aveugle, pauvre, misérable, et tu ne le sais pas. Assise au milieu de ses richesses, des dizaines de milliers, de dizaines de milliers et de milliers de membres, les richesses du monde dans sa main presque. Si on met tout ça ensemble à ce jour, l'Église catholique et les protestants, alors qu'ils sont en train de s'unir, ils possèdent les richesses du monde. Notre pays est fauché ou presque. Nous empruntons sur des impôts qui seront perçus dans 40 ans, à ce qu'on me dit, selon ce qu'ils ont dit à l'émission Lifeline. Les impôts que nous dépensons en ce moment seront perçus dans 40 ans. Mon petit-fils, si Jésus tarde, les impôts qu'il payera quand il aura 40 ans, c'est ce que nous dépensons en ce moment. Nous envoyons ça pour aider les pays étrangers alors que les Indiens de chez nous meurent de faim. Nous essayons d'acheter la fraternité. La fraternité, ça ne s'achète pas. Un ami, ça ne s'achète pas. Non. Mais voilà ce que nous faisons. Voilà notre système. Ils imposent des gens tout ce qu'ils peuvent récolter, des taxes. Et la dette de guerre que nous avons contractée ne sera pas réglée avant des centaines d'années encore, je suppose, à cause des politiciens. Nous ne devrions pas être dans cet état-là. Nous n'avons qu'une raison d'en être là. Mais les églises, elles, se sont enrichies. Presque toutes les richesses du monde, dit la Bible, se trouvent dans l'Église catholique. C'est pour ça que la Russie l'a expulsée, que la Russie l'a excommuniée. C'est ça qui a été la source même du communisme. C'est parce que l'Église enseignait qu'elle était quelque chose alors qu'elle n'était pas différente du reste du monde. Quand nous étions en Finlande là-bas que ce petit garçon a été ressuscité, ces soldats russes se tenaient au garde-à-vous et ils disaient « Nous recevrons un Dieu qui peut ressusciter les morts ». Nous avons construit des dénominations et des écoles et des bâtiments, mais nous n'avons pas fait ce que Jésus nous avait dit de faire, c'est-à-dire prêcher l'Évangile. Nous avons cherché à instruire le monde. Il n'a jamais dit « Instruisez le monde ». Celui qui sera instruit sera sauvé. Vous devez naître de nouveau. Être rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons échoué si lamentablement partout. Voyez-vous, nous avons les richesses. Nous les avons. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Quand cette Église, le Conseil mondial des Églises, se réunira, ne pouvez-vous voir qui sera à la tête? Vous, les méthodistes, les presbytériens, ne pouvez-vous pas comprendre ça? Et les autres, même les pentecôtistes, vous dites que vous n'y entrerez pas. Ou bien vous y entrerez, ou bien vous démantèlerez votre dénomination, de deux choses l'une. C'est là devant vous. Vous devrez le faire. C'est une contrainte, la marque de la bête. C'est exactement ça. Le système dénominationnel, absolument, je peux le prouver par la Bible, c'est la marque de la bête. Elle était une prostituée, ses filles étaient des prostituées. Et nous savons que c'est la vérité. La religion organisée, c'est contraire à la parole. Et les principes sur lesquels elles se fondent sont antichrist. Tout ce qu'on trouve là-dedans n'est pas antichrist, mais les principes sur lesquels elles se fondent, son système est antichrist parce qu'il est contraire à la parole de Dieu. Tous les systèmes organisés sont ainsi. Voilà, voyez-vous, et vous vous appuyez sur quelqu'un d'autre, leur intelligence, au lieu de vous appuyer sur l'intelligence de Dieu, ce que Dieu en a dit. C'est la raison pour laquelle c'est faux. Des jeunes hommes vont dans les séminaires, ils ont une bonne instruction, ils vont à ces écoles soi-disant bibliques, et peut-être qu'ils ont un appel de Dieu dans leur cœur. Ils vont là-bas et ils sont tellement endoctrinés avec un point de vue. Un tel l'a dit, l'évêque un tel, celui-ci l'a dit, celui-là. Les hommes réunis en conseil sont d'accord que ça devrait être ainsi. Peu importe quiconque, Jésus a dit que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit la vérité. Peu importe de qui, que la mienne soit la vérité. Maintenant, comment reconnaître ce qui est la vérité? Quand la Bible déclare que quelque chose arrivera, que quelque chose se produira, et que ça arrive ainsi. Maintenant, la Bible dit, en elle étaient les richesses du monde, l'or, l'argent. Donc, si nous sommes sur les talons or, et que nous sommes fauchés, maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Vous savez, les riches de cette nation, les grandes usines, les hommes du whisky et du tabac et ainsi de suite, comme ça, ils n'accepteront pas de changer la monnaie. Alors la seule chose à faire, ce sera d'emprunter. Et il n'y a qu'un seul endroit où nous pouvons emprunter. Et à ce moment-là, nous vendrons notre droit d'aînesse. C'est exact. Alors qu'allez-vous faire? Vous êtes la propriété de ce système. Il n'y a plus rien à faire. Oh, les amis, vous pensez peut-être que je suis fou, mais quand la mort aura fait taire ma voix, ces bandes continueront à jouer et vous reconnaîtrez que ce que j'ai dit s'est accompli. Je serai la personne la plus stupide de prendre la position que j'ai prise, d'aller jusqu'à m'élever contre cette chose-là. Je serai contre Dieu. Je serai contre tout ce qui est de Dieu. Si je faisais erreur dans mes opinions et dans mon appel, la chose serait contre Dieu. Mais si j'ai pris position, c'est parce que je le vois ici dans la parole. C'est la parole de Dieu. Et puis, j'en vois la confirmation, la vérité en être démontrée. Voilà l'interprétation que Dieu donne de sa parole. L'interprétation que Dieu donne lui-même de sa parole, c'est sa façon de la confirmer et d'en établir la vérité. Pourquoi les pharisiens étaient-ils aveugles? Qu'est-ce qui les rendait si aveugles? C'est parce qu'ils refusaient d'accepter la révélation ou la confirmation de la parole. Et c'est la raison aujourd'hui pour laquelle les églises sont aveugles, c'est parce qu'elles refusent d'accepter la révélation, alors même que la confirmation est donnée, bien que la parole le dise, que c'est révélé, et que c'est ensuite démontré, elles refusent quand même de l'accepter. C'est pour ça que les Juifs, jusqu'à ce jour, les Juifs refusent de l'accepter. Vous ne pouvez pas leur parler de Christ parce que le voile couvre encore leur visage. Ils sont aveuglés. Et l'Église, vous ne pouvez pas leur parler du plein évangile et de la puissance de Dieu, parce que le Dieu de ce siècle les a aveuglés aux vérités de Dieu et qu'ils s'appuient sur leur propre intelligence. Alors que les femmes entrent dans l'Église et qu'elles se coupent les cheveux, parce que leur pasteur leur dit, « Oh, tout va bien, cet homme-là est fou. » Mais la Bible dit qu'elle agit mal quand elle fait ça, que Dieu refuse d'entendre ses prières. Et certaines de cette femme-là ajoutent encore à la honte en essayant d'être prédicateur. À ce moment-là, elle fait une double chose. La Bible dit qu'elle ne devrait pas faire cela. Rien du tout. Mais l'Église, l'organisation va accepter ces choses. Elle ordonnera cette femme et l'enverra là-bas. Ils s'appuient sur leur propre intelligence. Une seule parole de Dieu mal placée ou mal interprétée ou qui n'est pas acceptée rompt toute la chaîne. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment se fait-il que vous, les femmes, vous m'entendez prêcher contre ces choses, contre le port des shorts et le maquillage et ses coiffures à cheveux courts et toutes les choses du genre? Et puis chaque année, quand je reviens, vous êtes encore assises là dans le même état. C'est parce que vous vous appuyez sur votre propre intelligence plutôt que sur la parole du Seigneur. Et vous, les pasteurs, pourquoi ne nettoyez-vous pas votre église? Parce que vous vous fiez à votre credo dénominationnel plutôt qu'à la parole du Seigneur. C'est vrai, ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Eh bien, ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence, mais sur la parole du Seigneur. Ils ne voulaient pas l'accepter parce qu'ils ne voulaient pas en accepter la confirmation. Jésus est venu avec un évangile exactement comme il avait dit qu'il viendrait, même que souvent, Jean était un peu déboussolé quand on l'a mis en prison et qu'il était là, il avait prêché que le Messie viendrait avec son vent à la main, il nettoierait son air et il brûlerait la paille dans un feu qui ne s'éteint point et amasserait le blé dans le grenier. L'Esprit de Dieu qui sortait, qui jaillissait de lui comme une fontaine. Et alors, quand il a vu venir Jésus, cette espèce de petit homme doux et humble qui était bousculé, il devait s'enfuir pour sauver sa vie. Jean ne comprenait pas. Alors il a envoyé quelques-uns de ses disciples pour voir Jésus, pour lui demander s'il était réellement celui-là. Comme c'était déshonorant pour Jésus. Après que ce prophète s'était tenu là dans l'eau avec la parole de Dieu, qu'il avait dit, « Je l'ai reconnu, parce que j'ai vu le Saint-Esprit comme une colombe, Dieu descendre du ciel comme une colombe et entrer en lui. Et j'ai entendu une voix qui a fait entendre du ciel, c'est moi, celui-ci est mon fils bien-aimé. » Et après ça, Jean a dit, « Allez lui demander si réellement c'était lui, ou devons-nous en attendre un autre ?» Maintenant, Jésus ne lui a pas envoyé un livre sur la façon de se comporter en prison ou sur l'église à laquelle il aurait dû adhérer, mais il a dit, « Restez un peu avec nous et observez ce qui se passe. » Et après, allez montrer à Jean les choses que vous avez vues et faites. En effet, ces œuvres qu'il faisait confirmaient qu'il était le Messie, le Fils de Dieu. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Cela a offensé tant de personnes. Il est si facile pour tant de gens de trouver dans la parole de Dieu une occasion de chute. Elle va à l'encontre, ils veulent s'appuyer sur leur propre intelligence, ils ne veulent pas accepter la parole de Dieu. Alors, ils suivent simplement la voie qu'on leur a enseignée. Et la voie qui leur est enseignée, leur église s'appuie dessus, peu importe que Dieu ait promis qu'il enverrait la pluie, qu'il y aurait de la pluie le matin, si l'église dit « ça ne tient pas debout », ils vont croire l'église plutôt que Dieu. Pourquoi? Ils sont nés de l'église. Mais un homme qui est né de Dieu, il est de la semence de Dieu, et la semence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et il vit uniquement de cela. C'est sa vie. Donc, ils s'appuyaient sur leur propre intelligence. Mais ils ne voulaient pas s'appuyer sur la parole de Dieu. Ils savaient ce qu'il en était. C'était dans l'Écriture. Ils ont dit que c'était un mauvais esprit, cet homme-là. Pourquoi? Le sacrificateur avait dit, « Tous ceux qui iront entendre prêcher cet homme seront exclus de la synagogue. » À un moment donné, un homme qui avait été aveugle a été guéri par Jésus. Même ses parents, ils étaient vraiment heureux de sa guérison, mais ils avaient peur de confesser que c'était Jésus qui l'avait fait. Eh oui, il a dit, « Est-ce là votre fils ?»« Oui, et qui l'a guéri ?»« Je ne sais pas, il a dit, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Il parlera de ce qui le concerne. En effet, il avait été dit que tout homme qui s'appuierait sur son intelligence à lui, Christ, plutôt que sur leur intelligence à eux, serait exclu de leur église. N'est-ce pas exactement la même chose maintenant? Je vous pose la question. C'est exact. Ça se dessine de la même façon. Qu'importe ce que Dieu peut faire, il faut que ça concorde avec leur propre intelligence des choses et non avec ce que Dieu confirme être la vérité. Mais cet homme-là, il a eu la réponse. Qui t'a guéri? Celui qu'on appelle Jésus de Nazareth. C'est un pécheur, nous ne savons pas d'où il vient. Il a dit, ça c'est une chose étrange. Vous êtes censés être les conducteurs de cette heure. Et voici un homme qui a ouvert mes yeux, ce qui n'a pas été fait depuis le commencement du monde, et pourtant vous dites que vous ne savez pas d'où il vient. Oh là là, pourquoi? Ils s'appuyaient sur leur propre intelligence plutôt que sur la parole du Seigneur. En effet, Isaïe avait dit que les aveugles verraient, que le boiteux sauterait comme un cerf, que les déserts éclateraient en cris de joie. Mais voyez-vous, ils se sont appuyés sur leur propre intelligence et non sur la parole, sur leur propre système qu'ils avaient établi. Maintenant, remarquez, les églises d'aujourd'hui font pareil. Elles se sont formées une super race d'intelligence par leur système dénominationnel. Elles ont une super intelligence des choses, tellement qu'ils ne veulent pas que personne y touche, que personne n'entre à moins de faire partie de leur groupe. Ne me dites pas le contraire, j'habite à Tucson, en Arizona. Je suis arrivé là-bas il y a 3 ans. J'ai eu une rencontre avec le conseil des églises et j'ai dit, je ne suis pas venu pour commencer une église, je suis venu pour fraterniser avec vous, je suis venu pour vous aider, je suis missionnaire, évangéliste, c'est ce que je fais. Ils ont dit, êtes-vous venu pour commencer une église? J'ai dit, non monsieur, je suis venu, si je voulais une église, j'en ai une en Indiana. J'ai dit, je suis venu ici parce que le Seigneur m'a conduit à venir ici par une vision. Je vais rester ici quelque temps, à moins qu'il me conduise ailleurs, mais je ne suis pas venu pour commencer une église, je suis venu pour aider. Vous, les frères, ça fait 3 ans. Je n'ai été invité nulle part. Pourquoi? Parce qu'ils se sont réunis tout de suite après et qu'ils ont dit que tout homme qui me ferait venir derrière sa chair, qu'ils excommunieraient ce prédicateur-là. Voyez-vous pourquoi? Ils s'appuient sur leur propre intelligence. Certainement. Ceux-là, ce sont les soi-disant. Ils forment leur super-intelligence. Si vous ne mettez pas votre nom sur le registre, vous êtes perdu. Un ministre me disait ça. « Oh, vous dites, ça, c'était un imposteur, c'était un pentecôtiste. » Jack Moore et moi, nous nous sommes assis là à l'écouter à Dallas, au Texas. Il disait qu'il allait devoir ôter un homme de leur registre. J'ai dit « Pourquoi? Parce qu'il a fraternisé avec... Eh bien, ôtez-le. Eh bien, alors il sera perdu. » J'ai dit « Perdu? » Il a dit « Si son nom n'est pas dans le registre. » J'ai dit « Vous voulez dire que vous êtes surveillant général et que vous croyez ça? » Il a dit « C'est la vérité. » J'ai dit « Raccrochez, monsieur. » Ce n'est pas ça la grâce de Dieu, voyez-vous. Car par un seul esprit, nous avons tous été baptisés dans un seul corps. Et nous devenons membres de ce corps. Peu importe la marque que vous portez, ça n'a rien à voir. C'est par une naissance que vous êtes un chrétien. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen pour vous d'en être un. Ce n'est pas par adhésion, par des credos, quoi que ce soit d'autre, ni par l'instruction, la théologie. Vous êtes un chrétien quand vous êtes né de nouveau. Et vous ne pouvez pas naître de nouveau à moins d'avoir été élu à naître de nouveau. Car nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et tous ceux que mon Père m'a donnés viendront. Amen. Je le ressusciterai au dernier jour. Ces grandes soi-disant écoles bibliques que nous avons, elles s'appuient sur leur propre savoir. Oh là là! Qu'importe ce que dit la parole, ils peuvent se l'expliquer tellement clairement, le faire croire à eux-mêmes et à ceux de leur espèce, que les jours des miracles sont passés. Ça n'existe pas, un prophète, des apôtres, ça n'existe pas, les dons de guérison et tout ça, ça n'existe pas. Toutes ces choses ont pris fin au jour de la Bible. Ils peuvent se faire croire cela. Vous savez, la Bible dit que vous pouvez croire un mensonge et être damné par lui. Voyez-vous, c'est l'exacte vérité. Peu importe ce que dit la parole de Dieu, ils s'appuient sur leur propre intelligence. Ils s'appuient dessus, ils y croient, ils pensent que c'est la vérité. Vous pouvez croire le même mensonge si souvent, si bien qu'à un moment donné, pour vous, ce sera la vérité. C'est exact. Mais comment savoir si c'est la vérité ou pas? Dieu en démontre la vérité, parce que c'est dans sa parole et qu'il la confirme, il en donne lui-même l'interprétation. Comment font-ils pour en arriver là? Ils le font à cause de leur culture, de leur instruction, de l'intelligence, des choses qui leur est inculquées par un diplôme, doctorat, et tel séminaire qu'ils ont fréquenté et où ils ont appris ces choses. Mais regardez, mes amis, écoutez. Nulle part dans la Bible, il nous est demandé de comprendre. Il ne nous est pas demandé de la comprendre, il nous est demandé de la croire. La croire comment? Par la foi. Si vous la comprenez, alors cela annule la foi. Vous ne pouvez pas la comprendre, mais vous la croyez quand même. Si je pouvais comprendre Dieu, je n'aurais pas besoin de croire Dieu. Je ne comprends pas Dieu. Personne ne comprend Dieu. Je ne peux pas comprendre la parole de Dieu. Mais je l'accepte, je la crois. Il ne m'est pas demandé de la comprendre. Je n'ai été dans aucun séminaire, toutes ces grandes intelligences, ce que l'homme connaît là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que la Bible dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Et c'est dans cette catégorie-là que je m'attends à le trouver. Je sais ce qu'il a promis de faire aujourd'hui, je m'attends à ce qu'il le fasse, et il le fait. C'est exact, il a promis la grâce, je m'attends à la recevoir, et je l'ai reçue. Il a promis la guérison, j'y crois, je l'ai acceptée, et je l'ai reçue. Maintenant, je ne veux pas prendre trop de votre temps, mais je voudrais vous demander une chose, si vous voulez être patient avec moi une minute, de considérer quelques-uns de ceux qui ne se sont pas appuyés sur leur propre intelligence, des personnages de la Bible, juste quelques-uns, qui ne se sont pas appuyés sur leur propre intelligence, quelle que soit l'intelligence de leur âge. Prenons par exemple Noé. Noé a vécu à une époque de grande recherche scientifique. C'est probablement au jour de Noé qu'ils ont construit les pyramides, ce qu'ils ne pourraient pas refaire aujourd'hui. Nous n'avons pas ce qu'il faut pour le faire, ce qu'il faut pour lever ces gros blocs de pierre là-haut. Ils n'y arriveraient pas aujourd'hui. À cette époque-là, ils avaient un genre de produit chimique qu'ils ajoutaient à la teinture et les vêtements ont gardé leur aspect naturel jusqu'à aujourd'hui. Ils avaient un liquide d'embaumement qui leur permettait de faire une momie. Ils n'arriveront pas à en faire aujourd'hui, même s'il le fallait. De nombreux arts se sont perdus. L'époque où il a vécu dans un âge scientifique, Jésus en a parlé. Il a dit qu'un âge comme celui-là réapparaîtrait avant son retour, car ce qui arriva du temps de Noé. Bon, vous êtes prêts à croire ça, n'est-ce pas? Croyez-vous que Jésus l'a dit? Croyez-vous que nous sommes revenus à cet âge-là? Maintenant ça, c'est dans le livre de Luc au chapitre 17, le verset 29. Maintenant, dans Luc 17, 30, il a dit, « Et ce qui arriva du temps de Lot, quand l'ange du Seigneur, maintenant il lisait la même Bible que nous, retournez en arrière pour voir quel genre d'époque c'était avant la pluie de Noé. Retournez en arrière pour voir quel genre d'époque c'était avant que le monde soit détruit. » Du temps de Lot. Voyez ce qu'il en était et vous verrez de quoi Jésus parlait. Au jour de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, donnaient en mariage et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche et que le déluge vienne et les emporte tous. Au jour de Lot, juste avant que le feu consume le monde, des nations, les sodomites, il y avait des homosexuels, des perversions et tout dans le monde. C'était un Los Angeles moderne. Non seulement un Los Angeles moderne, mais une réplique des États-Unis. Non seulement des États-Unis, mais du monde. Certainement que ça l'était, de la perversion. Les hommes avaient perdu leur source naturelle de vie et l'intelligence naturelle, leur bon sens. Ils s'étaient pervertis à cause d'un mauvais esprit qui avait changé tout le cours de leur vie naturelle et ils étaient possédés d'esprits démoniaques. Si ce n'est pas là la description du temps de Noé, je ne sais pas ce qui le sera. Et au jour de Lot, je veux dire, au jour de Noé aussi, ils mangeaient, buvaient, se mariaient, les tribunaux de divorce se remplissaient et tout, c'était ainsi. Mais souvenez-vous, avant que le monde soit détruit, Abraham a été envoyé sur la face de la terre et il a reçu la promesse d'un fils. Et Abraham a rencontré Dieu à plusieurs étapes, un type de l'Église qui a rencontré Dieu. Mais juste avant la destruction et le retour du fils promis, ou plutôt sa venue, la venue du fils qui avait été promis, Dieu est descendu et il s'est manifesté dans une chair humaine, dans un homme, trois hommes. Ils sont venus vers Lot. D'abord, ils sont venus à Abraham et ils se sont assis. Et Abraham a eu son nom changé d'Abraham en Abraham, de Sarai en Sarah. Et cet homme, celui qui parlait, Elohim, quand il est venu lui parler, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, « Où est ta femme Sarah ?» Il a dit, « Elle est dans la tente derrière toi. » Il a dit, « Je te visiterai au temps de la vie. » Et elle a ri dans la tente derrière lui. Et il a dit, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ?» Vous voyez? Maintenant, il aurait ôté la vie à Sarah sur le champ pour avoir ri de sa parole. Mais il ne pouvait pas le faire. Parce que Sarah était une partie d'Abraham. Et aujourd'hui, Jésus a dit, dans Luc au chapitre 17 et au verset 30, ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même au temps de la fin, quand le Fils de l'homme, maintenant souvenez-vous, Fils de l'homme, c'est un prophète. Jéhovah a appelé Ézéchiel Fils de l'homme. Jésus est venu avec trois noms, Fils de l'homme, Fils de David, Fils de Dieu. Il se donnait le nom de Fils de l'homme pour que les gens comprennent parce qu'il était ce prophète que le Seigneur Dieu devait susciter. Maintenant, remarquez, qu'a-t-il promis ensuite? Que le Fils de l'homme se révélerait de nouveau, juste avant ce temps-là, avant le feu. Et ce signe-là a été le dernier qu'Abraham a vu avant l'arrivée du Fils promis. Et il est redevenu un jeune homme, et elle, une jeune femme. Maintenant, remarquez, c'est précisément ce que dit l'Écriture maintenant. Nous devons nous attendre à cela. Et alors, si nous voyons le monde dans la perversion et les choses qu'on y trouve aujourd'hui, la façon dont ça se passe, alors comment pouvons-nous dire que cette partie-là est vraie et ne pas dire que l'autre aussi est vraie? C'est parce que quelqu'un vous appuyez sur leur intelligence et non sur l'intelligence du prince de la vie qui était cette personne avec eux à la porte de Sodome. Maintenant, nous remarquons, nous ne nous appuyons pas sur notre propre intelligence. Noé ne s'est pas appuyé sur son intelligence. C'était un grand âge de science, mais il ne s'est pas appuyé sur l'intelligence de son époque. Mais il s'est appuyé sur la promesse de Dieu. Et il a agi par la puissance de Dieu. Il a préparé une arche pour sauver sa famille. Alors que c'était absolument contraire au bon sens. Il n'y avait pas d'eau là-haut. Il n'y en avait jamais eu. Mais il savait que si Dieu avait dit qu'il y en aurait, il y en aurait. Alors il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence, mais c'est par la foi qu'il a agi, selon la parole de la promesse de Dieu. L'Esprit l'a poussé et il l'a fait. Abraham, il ne s'est pas appuyé sur l'intelligence qu'il avait de la vie humaine. Sa femme, il l'avait épousée à l'âge d'environ 17 ans, et il était maintenant âgé de 75 ans, et elle de 65 ans. Elle était de 10 ans plus jeune que lui. Mais Abraham ne s'est pas appuyé sur son intelligence quand Dieu a dit qu'il lui donnerait un fils par Sarah. Mais il appelait toute preuve scientifique qui était contraire à la parole de Dieu, tout savoir qui ne se trouvait pas dans la parole de Dieu, comme si ça n'existait pas. Et il a donné la louange à Dieu. Il était fort. Il lui donnait la louange. Il n'a même pas considéré, regardé à son propre corps, ni à l'état du corps de Sarah, et son corps non plus. Il n'a rien considéré, mais il s'est appuyé sur la promesse de Dieu. Il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence. Il ne s'est pas appuyé sur des raisonnements. Vous dites, frère Branham, il est raisonnable que Dieu ne guérisse pas les malades. On a tellement de bons médecins. La Bible dit, nous renversons les raisonnements. Nous ne raisonnons pas. La foi ne raisonne pas. La foi croit et accepte. Remarquez. Mais il a cru au lieu d'être incrédule. Et il a appelé les choses qui n'étaient point comme si elles étaient, ce qui était contraire à tout raisonnement. Mais il n'a pas raisonné. Il a cru simplement. Aucun raisonnement n'aurait pu démontrer la possibilité que ce bébé naisse. Cette femme-là avait passé l'âge de la ménopause depuis 20 ans. Et son corps à lui était, pour ainsi dire, mort. Et à l'âge de 100 ans, 25 ans plus tard, il donnait encore la louange à Dieu, ce qui était contraire à toute intelligence. Mais par la foi, il savait que Dieu tiendrait sa parole. Il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence. Que se serait-il passé si Moïse s'était appuyé sur sa propre intelligence quand Dieu lui a dit qu'il allait reprendre Pharaon ou les enfants d'Israël de la main de Pharaon? Que se serait-il passé s'il s'était appuyé sur sa propre intelligence quand il était là près de la colonne de feu, que Dieu lui a dit « Vas-y, je serai avec toi ». Et quoi s'il s'était appuyé sur son intelligence quand il les amenait à la mer Rouge et qu'ils étaient là au bord de l'eau, alors que Dieu leur avait promis le pays promis? Et s'il s'était appuyé sur sa propre intelligence, comment vais-je faire pour traverser? Nous n'avons pas le temps de construire un pont. Il y a l'armée qui arrive derrière nous. Il y a les montagnes de chaque côté. Il y a l'eau devant nous. La mer Rouge. Bon, s'il s'était appuyé sur sa propre intelligence, il serait parti, les mains en l'air, en courant. Il se serait jeté aux pieds de Pharaon en disant, « Pardonne-moi, Pharaon, j'ai mal agi. » Seulement, il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence. Mais il a prié, et Dieu lui a dit d'avancer, et la mer s'est ouverte. Ce qui était contraire à tout raisonnement. Mais il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence. Que se serait-il passé si Josué, quand il est allé là avec les autres, les 10 dénominations, qu'il s'est rendu là-bas et qu'il a vu ce pays promis de Dieu, s'il était revenu avec eux en disant, « Bon, c'est vrai, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Ce sont des géants. Comment pourrons-nous les prendre? Nous n'avons même pas d'épée, seulement ce que nous avons pu trouver. Comment pourrons-nous jamais nous emparer de ce pays? Voyons, c'est totalement impossible. Ils sont 50 fois plus nombreux que nous. Ce sont des soldats entraînés. Nous ne sommes qu'une bande de bergers et de travailleurs dans la boue d'Égypte. Nous n'avons même pas de bouclier ni rien. Comment pourrons-nous nous en emparer? Voyons, l'intelligence aurait certainement démontré qu'ils ne pouvaient pas y arriver. N'importe quel militaire, comme lui ou Moïse, n'aurait pas pu s'appuyer sur sa propre intelligence. Seulement leur intelligence, ils ne se sont pas appuyés dessus, mais ils savaient que Dieu avait dit, « Je vous ai donné ce pays, allez vous en emparer. » Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Si vous vous appuyez sur votre propre intelligence aujourd'hui quand vous êtes malade, peut-être que vous êtes dans un fauteuil roulant, mourant du cancer, vous souffrez du cœur, que le médecin dit que vous allez mourir. Si vous vous appuyez sur votre intelligence, vous mourrez. Mais vous ne vous appuyez pas sur cette intelligence-là, certainement pas. Et que dire des murailles de Jéricho, dont on dit qu'il pouvait faire une course de char sur ces grandes murailles? Dieu a dit, « Allez là-bas et faites-en le tour tant de fois et sonnez de la trompette et tous ensemble, poussez un grand cri et la muraille s'écroulera. » Eh bien, ça, c'était absolument, ce serait stupide pour la pensée charnelle. Mais Josué, il connaissait l'épaisseur de ces murailles-là, parce qu'il en avait construit beaucoup, de murailles en Égypte. Il savait combien il y avait de ciment. Il en connaissait la solidité, on y faisait des courses de chars, il avait même des maisons construites dessus. Mais il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence. Il a cru que ce que Dieu avait dit était la vérité, et il a obéi à sa parole, et les murailles se sont écroulées. Il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence. Et que se serait-il passé si pendant qu'il livrait bataille, et comme je l'ai prêché dimanche, et que le soleil allait se coucher avec l'ennemi qui avait été mis en déroute cette nuit-là, il se serait rassemblé, il serait revenu avec d'autres, il aurait tué beaucoup de ses hommes. Alors que se serait-il passé s'il avait dit « J'ai besoin de la lumière du jour, il me faut encore la lumière du soleil ». Bon, un instant, Dieu a établi cet ordre-là, le soleil, la terre tourne. Maintenant, si je disais au soleil de s'arrêter, peut-être que si la terre s'arrêtait maintenant, elle perdrait sa force de gravitation, je tomberais. Mais il n'a pas écouté son intelligence. Tout ce qu'il a dit, c'est « Soleil, arrête-toi. Et toi, lune, reste où tu es. » Et ils lui ont obéi. Il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence, mais il s'est appuyé sur la promesse de Dieu. « Je t'ai donné ce pays, va t'en emparer. » Il vous a donné la promesse du Saint-Esprit. Vous pouvez l'avoir pendant cette convention. Vous pouvez l'avoir maintenant. Ne vous appuyez pas sur « tu sais, je suis fatigué, j'ai trop mangé pour souper, je n'aimerais pas que j'en me voie. » Oh, miséricorde. Vous vous appuyez sur votre propre intelligence. La promesse est pour vous et pour les enfants de vos enfants, pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Le médecin m'a dit que j'allais mourir, il m'a examiné, il a dit que j'avais ce cancer, que j'avais ceci, je suis condamné. Ne t'appuie pas sur cette intelligence-là. Dieu est le Seigneur ton Dieu qui guérit toutes tes maladies. Alors ne t'appuie pas sur cette intelligence-là, sur l'intelligence d'un homme. Appuie-toi sur l'intelligence de Dieu. Que dire de Samson, là, dans les champs, quand les Philistins, 1000 hommes, se sont jetés sur lui? Et il était là, un petit gars, pas plus haut que ça. Il ne s'y connaissait pas dans le maniement de l'épée, parce qu'il ne savait pas, il n'avait pas de formation militaire. Il avait l'air d'un petit efféminé, avec cette tresse qui pendait, le fils à maman, qui se tenait là, et voici 1000 Philistins qui arrivent. Eh bien, il n'avait rien à la main, il a regardé par terre, il a trouvé une mâchoire de mule blanchie et il l'a ramassée. Et maintenant, il dit, voyons, je ne ferai pas grand-chose avec ça, parce que les casques qu'ils ont, ces Philistins, tous ces soldats, ils ont tous des lances, ils ont tous des cuirasses, et leurs casques pèsent 7 ou 8 kilos. Ce sont des grands gaillards déterminés. Si jamais je frappais un de ces casques-là avec cette mâchoire fragile, elle se casserait en morceaux. Il ne s'est pas appuyé sur son intelligence. Il a tout simplement pris ce qu'il avait à la main et il s'est mis à frapper les Philistins. Et après en avoir abattu 1000, il avait encore la mâchoire à la main. Amen. Ce que la théologie des hommes en dit, ça m'est égal. Ne vous appuyez pas là-dessus. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Certainement, il le croyait. Que se serait-il passé si David avait écouté la théologie de Saül? Goliath était là-bas qui se glorifiait et tout le monde avait peur. Saül, qui dépassait d'une tête toute l'armée. Goliath disait que quelqu'un vienne donc se battre contre moi. Il n'est pas utile que nous mourions tous. Si je vous tue, alors vous nous servirez. Et si vous me tuez, eh bien, c'est nous qui vous servirons. C'est parce qu'il tenait là le haut du pavé. C'est comme ça que le diable aime faire quand il a tout son séminaire avec lui, qu'ils sont tous là quand il se présente, voyez-vous. Ce brave petit David, il se promenait là avec un morceau de peau de mouton sur le dos, le teint rosé, les épaules tombantes. Un petit gars de 50-55 kilos, il a dit, « N'allez pas me dire que l'armée du Dieu vivant, qui est lié à une alliance par circoncision, va rester là et laisser ce Philistin incirconcis défier l'armée du Dieu vivant. » Saül a dit, « Viens ici, mon garçon. J'admire ton courage, mais les jours des miracles sont passés. On n'a rien de tout ça, tu vois. Et je vais te dire quelque chose. Quelle carte de membre as-tu à me montrer? Tu n'as même pas d'armure, tu n'as rien d'autre qu'une fronde à la main, tu vois. Tu n'as pas de doctorat en philosophie ou en droit. Comment vas-tu faire? Cet homme-là est un guerrier. Il a un double doctorat en théologie, en droit, en philosophie et quoi encore. Il a tellement de diplômes qu'il pourrait en tapisser un mur. Et toi, qui es-tu? Un berger? Il a dit, mais je voudrais te dire quelque chose. Il a dit, sais-tu quoi? Je faisais paître les brebis de mon père. Et un lion est venu en enlever une et il est parti avec. Et j'ai pris cette petite fronde et j'ai couru après et je l'ai mis à terre. J'ai arraché l'agneau de sa gueule et alors il s'est dressé contre moi et j'ai simplement pris mon couteau et je l'ai tué. Je suis reparti et là un ours est venu enlever cette brebis. Il l'a prise, il est parti avec, je l'ai tué aussi. Il dit, maintenant, le Dieu, pas mon doctorat en philosophie, pas ma propre intelligence, je ne peux pas t'expliquer comment je fais. Je ne sais pas comment la chose se fait, mais le Dieu, amen. Le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours et du lion, combien plus il me délivrera de la main de ce Philistin incirconcis? Un évêque, Saül, a dit, « Tu sais, je crois que tu as un appel, mon garçon. Je vais te dire, si tu viens ici, je vais te montrer comment te battre en duel, tu vois. Je vais te dire, je suis docteur, alors mets donc mon armure. Je vais te revêtir. » David s'est tenu là et ils lui ont donné un doctorat en philosophie ou en théologie. Et le pauvre petit ne pouvait même plus bouger. Il ne savait pas comment. Il a dit, « Je ne suis pas habitué à ça, cette veste ecclésiastique ne me va pas. Débarrassez-moi de ça. Laissez-moi y aller avec ce que Dieu m'a donné pour m'aider. » C'est-à-dire la foi dans la puissance de Dieu. Et il ne s'est pas appuyé sur sa propre intelligence. Il ne s'est pas appuyé sur ce que quelqu'un d'autre avait dit. Il s'est appuyé sur la foi. En effet, il savait que si Dieu l'avait délivré de la patte de l'ours, combien plus il le délivrerait de ce Philistin. Eh bien, si Dieu vous a aimé assez pour vous retirer du péché et pour vous remplir du Saint-Esprit, qu'est-ce que vous avez, pauvre faiblard, partout dans le pays? Ne va-t-il pas vous délivrer à plus forte raison de votre affliction, puisqu'il a promis de le faire? C'est la parole de Dieu qui le dit. Il le fera, certainement. Il l'a délivré de sa main. Oh, chacun des prophètes, qu'est-ce qui se serait passé s'ils s'étaient appuyés sur leur propre intelligence à leur époque? Ils ne seraient jamais allés voir les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs pour les traiter de murailles blanchies et tout le reste. Ils n'auraient jamais prophétisé contre eux. Ils auraient été comme certains de ces prophètes modernes. Ils auraient été d'accord, ils auraient porté de beaux vêtements, été dans le palais des rois. Qu'est-ce qui se serait passé si Jean avait essayé de s'appuyer sur sa propre intelligence? Mais il s'est présenté là, il disait, un instant, Jean ne prêche surtout pas un mariage de divorce. Il est allé devant Hérode et il lui a dit, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il disait, sais-tu qui c'est? Je m'en fiche de qui c'est. Il ne s'appuyait pas là-dessus. Il disait, mais tu es dans le désert, là, l'association ne voudra pas t'accepter si tu te mets à te conduire comme ça. Il ne se souciait pas de l'association. Il ne s'appuyait pas sur sa propre intelligence, mais sur l'intelligence de Dieu, certainement. Il y a eu un homme qui, lui, s'est appuyé sur sa propre intelligence. Il s'appelait Judas Iscariote. Oh! Je ne vois pas comment il a pu faire une chose pareille. Il avait marché face à face avec Christ. Exactement comme Ève l'avait fait au commencement. Il avait vu la confirmation. Il avait regardé Dieu en face comme Ève dans la fraîcheur du soir. Ève avait regardé Christ dans la fraîcheur du soir dans le jardin. Et Judas s'était assis dans la fraîcheur du soir dans le jardin de Gethsémané et à bien des endroits. Et il avait regardé ce même Christ. Il avait entendu enseigner, démontrer ce qu'il était par la parole, confirmer qu'il était le prophète dont Moïse avait annoncé qu'il serait suscité. Il leur avait dit, en prenant l'Écriture, qui il était et tous les détails, ils avaient vu Dieu démontrer qu'il était bien celui-là. Et ensuite, il s'est appuyé sur sa propre intelligence. Comment a-t-il pu faire une chose pareille? C'est parce qu'il n'y avait rien à l'intérieur de lui au départ. Il n'était pas une semence qui a germé. Il était le fils de la perdition, né de la perdition, et il est retourné à la perdition. Maintenant, remarquons, mais il est parti comme ça, peut-être qu'il s'était fait une idée par son intelligence, peut-être qu'il pensait que Jésus, il avait tant de respect pour lui, bon, il me semble que je pourrais peut-être le vendre pour 30 pièces d'argent. Comme ça, j'aurai de l'argent, je pourrais faire quelque chose avec, et il est capable de se délivrer tout seul. Voyez-vous, il ne savait pas que selon l'Écriture, il avait été suscité pour prendre cette position-là. Et les gens aujourd'hui non plus, ils ne se rendent pas compte que de l'état dans lequel ils sont ordonnés dans cet âge de Laodicée à être dans cet état-là, à mettre Christ dehors. Et lui, il frappe. Il cherche à revenir à l'intérieur, mais sans aucune collaboration nulle part. Il confirme sa parole à l'époque actuelle comme il l'a fait à chaque étape, à chaque époque, et il s'en détourne. Il s'appuie sur leur propre intelligence, voilà tout. Ou peut-être, disons qu'il pensait comme ceci, que s'il vendait Christ pour 30 pièces d'argent, eh bien, qu'il aurait de la communion fraternelle avec certaines des grandes dénominations de l'époque, les pharisiens et les sadducéens. Il a pu se dire, bon, attends un peu, il peut se débrouiller tout seul. Je l'ai vu livrer de grandes batailles, je sais qu'il peut se débrouiller tout seul. Alors aussi bien me faire un peu d'argent, un genre de petit fonds de retraite, comme on dit. Et puis, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai la cote auprès des églises aujourd'hui, si je leur livrais, voyez. Mais il s'est appuyé sur sa propre intelligence plutôt que sur l'intelligence de savoir que c'était là la parole de Dieu confirmée. Et il a fait à Jésus exactement ce que les Écritures avaient dit qu'il ferait. Et aujourd'hui, le monde ecclésiastique a mis Christ à la porte en ces derniers jours, et c'est exactement ce que le livre de l'Apocalypse a dit qu'il ferait. C'est l'esprit de Judas de nouveau, sous forme d'église, ayant l'apparence de la piété, mais reniant la parole. C'est exact. Maintenant, oh là là, quel en était le résultat? La mort. Exactement comme pour Ève. Et c'est ce qui se produit chez tous les autres qui cherchent à pervertir la parole de Dieu et qui s'appuient sur leur propre intelligence. Même maintenant, ils vendent, pas pour 30 pièces d'argent, mais peut-être pour devenir, oh, quelqu'un de haut placé avec une expérience de séminaire. Ça ne vaut pas 30 pièces d'argent, mais ils la vendent quand même. Ils vendent l'intelligence qu'ils ont de Dieu pour une chose pareille. Quelle différence avec le grand érudit Saint Paul qui possédait toute la connaissance dont il pouvait se vanter. Mais il a dit, j'ai rejeté tout cela, tous mes raisonnements. J'ai rencontré une colonne de feu un jour que j'étais en route vers Damas. Il a dit, je ne suis pas venu vers vous avec une supériorité de langage, parce que si je l'avais fait, vous auriez mis votre confiance dans la sagesse des hommes. Mais je suis venu vers vous avec la puissance et la démonstration du Saint-Esprit pour que vous vous appuyiez sur la parole de Dieu. Amen. Il a dit, si un ange du ciel venait vous annoncer autre chose, qu'il soit maudit. Galates 1:8. C'est exact. Non, monsieur, il n'a jamais fait ça. La petite femme au puits, elle était immorale. Mais elle savait que les églises l'avaient excommuniée. Mais elle ne s'est jamais appuyée sur sa propre intelligence. Quand elle a rencontré cet homme au puits, qui lui a dit tous les péchés qu'elle avait faits, elle est allée à la ville en courant. Maintenant, ce n'était pas bien de la part d'une femme d'agir comme ça, d'aller là-bas et de dire quoi que ce soit, parce que c'était une prostituée. Mais quand elle a rencontré Jésus, elle ne s'est pas appuyée sur l'intelligence des gens de l'époque. Elle est allée dire, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Elle ne s'est pas appuyée sur son intelligence. Non. La Vierge Marie, quand l'ange Gabriel est venu la voir et qu'il lui a dit qu'elle aurait un bébé sans avoir connu d'homme, ça ne s'était jamais produit. Elle ne s'est pas appuyée sur sa propre intelligence qu'une femme ne pouvait pas avoir un bébé sans avoir un mari. Elle ne s'est pas appuyée là-dessus. Mais elle a dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle n'a pas dit, « Comment vais-je faire cela? Comment vais-je faire? Comment est-ce que ça va se passer? » L'ange a dit, « Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, et la sainte chose qui naîtra de toi sera appelée le Fils de Dieu. » Elle a dit, « Voici la servante du Seigneur. » Elle ne s'est pas fiée à ses raisonnements, c'est une chose impossible. Elle a dit, « Voici la servante du Seigneur, c'est exact. » Remarquez. La femme qui avait la perte de sang, le médecin lui avait dit, « Il n'y a pas d'espoir. » Elle avait dépensé tout son argent chez les médecins et aucun n'avait pu l'aider. Elle ne s'est pas appuyée là-dessus. Et quand Jésus, elle s'est effrayée à un chemin dans la foule et elle a dit, « Je crois que si je peux toucher les vêtements de cet homme, je serai guérie. » Elle s'approche donc. Attends un peu là, le médecin a dit que tu ne peux pas te rétablir. Il y avait bien des années qu'elle avait cette perte de sang. Elle s'affaiblissait tout le temps, son état empirait et les médecins l'avaient abandonné. L'intelligence qu'ils avaient dans son cas se limitait à ça. Mais elle a dit par la foi, il n'y avait aucun passage. Mais elle a dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Et elle s'est faufilée jusque-là et l'a touché. Elle s'est retournée, est allée s'asseoir, Jésus s'est retourné, il a dit, mais qui m'a touché? Il a regardé autour de lui jusqu'à ce qu'il la trouve. Il lui a parlé de sa perte de sang. Et elle a senti à ce moment-là dans son corps, elle n'a pas pu le prouver, mais elle a senti dans son corps que sa perte de sang s'était arrêtée. Elle n'a pas raisonné que si le médecin l'avait condamnée, comment était-il possible qu'elle reçoive de l'aide d'ailleurs. Elle n'est pas allée dans le raisonnement, mais elle est allée dans la foi. Maintenant, la Bible dit qu'il est le grand prêtre aujourd'hui qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Pas vrai? Ne vous fiez pas au raisonnement. Il a dit, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Il est en ce moment même un grand prêtre qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Pensez-vous quand j'étais là, un prédicateur baptiste, et que l'ange du Seigneur m'a rencontré et qu'il m'a donné la commission d'aller faire ce que je fais maintenant? Mais mon pasteur a dit, tu as perdu la tête, tu as fait un cauchemar. J'ai dit, vous faites mieux de reprendre ma carte de membre maintenant même. Il a dit, comment toi, qui n'as même pas fini l'école primaire, tu vas prêcher dans le monde entier? Comment vas-tu prier pour des rois et des potentats alors que tu ne sais même pas employer une bonne grammaire? Je ne mettais pas ma confiance dans ma grammaire. Je ne mettais pas ma confiance dans aucune capacité personnelle. J'avais reçu une commission. Alléluia. Je ne me suis pas fié à des raisonnements. Si j'avais écouté les raisonnements, probablement que des milliers de gens seraient morts il y a des années. Mais j'ai porté un message exactement comme il l'avait dit tout autour du monde. Et par la grâce de Dieu, je repars. Pas par le raisonnement, mais par une commission. Alléluia. Je ne me suis pas appuyé. Vous dites, vous avez 55 ans, même si j'en avais 95, ça n'a absolument rien à voir. Il est toujours le même Dieu qu'il était avec Abraham. Oui, monsieur, ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Et après que le signe est allé de l'avant, quand la voix a suivi, les églises se sont mises à me rejeter et à me fermer leurs portes à cause de la doctrine, alors qu'aucun n'ose se tenir devant moi pour me dire qu'elle est vraie ou fausse. Je défie n'importe lequel. Oui, ce n'est pas pour faire le malin, mais je sais où j'en suis. C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé toutes leurs portes. Et maintenant, qu'allez-vous faire? L'autre jour, j'étais là sur la montagne, je disais, « Seigneur, je n'ai qu'une porte ouverte autant que je sache. » C'est à Phoenix, en Arizona. C'est la seule. Et comme je descendais de la montagne aussi clairement que jamais, il a dit, « Que t'importe, toi, suis-moi. » Pas sur ma propre intelligence. Je m'appuierai sur sa promesse. Oh, les amis, ne vous appuyez pas sur les raisonnements. Et criez-vous alors, comme Eddie promit autrefois, que tous acclament la puissance du nom de Jésus, que les anges se prosternent devant lui, apportez le diadème royal et couronnez le Seigneur de tous. Couronnez-le, lui, Seigneur de tous. C'est exact. Ne vous appuyez pas sur ce que vous pensez, sur ce que quelqu'un d'autre pense. Par la foi, acceptez la promesse de Dieu. Voulez-vous le faire? Maintenant, il ne s'agit pas de savoir si quelqu'un d'autre l'a fait ou ne l'a pas fait, mais qu'en est-il de vous? Que ferez-vous de ce Jésus qu'on appelle le Christ, qui se fait connaître aujourd'hui de la même manière qu'il l'avait fait à cette époque? Croyez-vous en lui? Prions. Seigneur Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu des dieux, Dieu de tous les potentats, le premier, le dernier, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, l'étoile brillante du matin, la rose de Saron, le lys de la vallée, la racine et la postérité de David. Viens, Seigneur Dieu, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Bénis cette assemblée de gens, Seigneur, ce qui va commencer demain. Nous avons eu quelques réunions ici, et tu nous as bénis. Tu t'es fait connaître à nous. Je te prie, ô Dieu, de continuer à te faire connaître à nous. Bénis-nous ce soir. Aide-nous maintenant. Nous sommes un peuple dans le besoin. Et Seigneur, tu sais que je n'aime pas reprendre les gens. Mais comment faire taire cette chose sacrée qui brûle en moi? Je n'aime pas faire ça, Seigneur. Tu connais ma vie, mon cœur. Je dois le faire. Aussi, je te prie, ô Dieu, de m'aider à le faire. Donne-moi seulement la grâce et que je ne m'appuie jamais sur ma propre intelligence, mais que je m'appuie sur ta promesse. Au nom de Jésus, amen. Je voudrais que vous soyez tous très respectueux pendant quelques minutes. Dans cette assemblée, sans doute qu'il y a des hommes et des femmes qui sont malades. Combien ici sont malades et affligés? Levez la main, dites simplement, « J'ai besoin de Dieu ». Levez simplement la main, « J'ai besoin de Dieu ». Je ne connais pas un grand nombre de personnes. Je connais les trois garçons qui sont assis juste ici. Je connais M. Dow et sa femme qui sont assis là. Je pense que c'est Sœur Moore ici, je ne suis pas sûr. C'est ça, Sœur Moore? À part cela, je pense que c'est tout. Frère Mike sur l'estrade. Et c'est pour autant que je sache, d'après ce que je vois. Mais le Père Céleste qui a promis, et qu'en ce jour-ci, qu'il confirmerait ce qu'il est dans cet âge-ci exactement de la même manière qu'il avait fait à Sodome. Est-ce qu'il l'a promis? Qu'il se manifesterait. Croyez-vous cela? Maintenant, si vous voulez prier, et par la foi, ne cherchez pas à raisonner, comment puis-je le toucher comme grand prêtre? Maintenant, la Bible dit, dans le Nouveau Testament, il est le souverain sacrificateur, maintenant même. Il reste en place comme grand prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. Il est le grand prêtre pour toujours. Il n'y a pas d'autre grand prêtre que lui. Aucun autre médiateur entre Dieu et les hommes, sinon l'homme, Christ. C'est vrai. Il est le seul. Et il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il est encore le même souverain sacrificateur, et que la Bible dit que nous pouvons le toucher par le sentiment de nos infirmités, alors, comme cette petite femme qui avait touché son vêtement, votre foi peut le toucher ce soir, et il agira de la même manière dans une chair humaine, comme il avait agi quand il était dans une chair humaine aux chaînes d'Abraham. Croyez-vous cela? Il a promis de le faire. Maintenant, priez simplement, tous ceux qui ont besoin. C'est comme je le disais, un don, ce n'est pas quelque chose comme de prendre un couteau, si vous voulez vous en servir pour couper ceci, vous pouvez le couper, couper ceci, ou ce que vous voulez faire. Ce n'est pas ça un don de Dieu, voyez. Non. Un don de Dieu, c'est un moyen que vous avez de vous enlever du chemin. Et les dons et les appels sont de la prédestination de Dieu. Les dons et les appels sont même sans repentance. Vous êtes né avec cela. C'est un petit levier que vous pour vous faire passer d'une vitesse à l'autre, mais vous ne pouvez pas appuyer sur l'accélérateur. Voyez-vous, c'est Dieu qui doit le manœuvrer. Vous devez vous enlever du chemin. Votre foi, à vous, peut le manœuvrer, pas la mienne, la vôtre. La mienne, c'est de s'enlever du chemin, c'est tout. Croyez de tout votre cœur que Jésus-Christ vit aujourd'hui. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Vous dites, « Eh bien, regardez, mon état est très grave, frère, vous ne me connaissez pas, je suis dans un fauteuil roulant. Ce que vous avez été pour moi, ça ne compte pas, voyez. » Si Dieu ne va pas descendre et faire exactement ce qu'il a fait quand il était ici sur la terre dans un corps physique, il le fera dans votre corps, dans mon corps, tous ensemble, comme une unité qui croit en lui. Il le fera parce qu'il a promis de le faire. Maintenant, ne vous appuyez pas sur ce que quelqu'un a dit. Oh, c'est de la télépathie. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Ils ont dit la même chose de Jésus. Un diseur de bonne aventure, un démon. Mais il était le Fils de Dieu parce qu'il correspondait à la parole promise de Dieu. Maintenant, comme je le disais, les salles qu'on a, on n'est pas obligé d'avoir ça pour venir imposer les mains aux gens. Mais nous leur avons imposé les mains hier soir. Mais la seule chose que vous devez avoir, c'est la foi et ensuite reconnaître. Par la foi, vous l'acceptez. Par la foi. Non, par quoi que ce soit. Ne dites pas, eh bien, comment cela se peut-il? Si je pouvais vous dire comment cela se fait, alors ce ne serait plus la foi. Je ne sais pas comment cela se fait. Je ne sais pas, mais je le crois. Je ne sais pas comment Dieu sauve un pécheur, mais il le fait. Je ne sais pas comment Dieu fait toutes ces choses, mais je l'accepte. Il le fait. Et c'est comme ça. Je ne peux pas l'expliquer. Ça ne s'expliquera jamais. Personne ne peut l'expliquer. Parce que si vous l'expliquez, à ce moment-là, ce n'est plus la foi. Je ne comprends pas que Dieu et Christ puissent être une seule et même personne, mais ils l'étaient. L'Écriture le dit. Eh bien, vous ne pouvez pas l'expliquer, mais ils l'étaient. Mon Père est en moi. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui est en moi. Si je ne fais pas ses œuvres, alors cela montre que je ne suis pas de lui. Mais si je fais ses œuvres, alors c'est lui-même qui rend témoignage que je suis de lui. Eh bien, c'est la même chose maintenant, exactement. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, si vous voulez croire. Maintenant, il y a un homme assis juste ici devant moi. Il a les cheveux foncés, il porte une montre au bras, un costume foncé, il porte des lunettes. Si vous regardez ici, vous le verrez assis, là, les yeux fermés, il prie. Je ne connais pas cet homme. Le Père Céleste sait que je ne le connais pas. Mais je vais juste m'occuper de lui un petit instant, parce qu'il semble être tellement sincère, assis là. Depuis que j'ai fait mention de cela, cet homme a simplement fermé les yeux et il s'est mis à prier. Cet homme est un inconnu pour moi. Là, vous voyez mes mains. Je ne le connais pas. Dieu connaît cet homme. Et il peut me révéler, si cette promesse de la Bible est vraie, il peut me révéler la raison pour laquelle cet homme a les yeux fermés et pourquoi il prie. Croyez-vous ça? Le croyez-vous, monsieur? Si vous voulez bien ouvrir les yeux, vous assis juste ici, regardez ici. Croyez-vous ça? Maintenant, vous savez que je ne vous connais pas. Nous sommes étrangers l'un à l'autre. Mais Dieu vous connaît. Il s'est mis à pleurer, là. Il verse des larmes. En effet, je peux lui dire tout de suite que Dieu va exaucer sa demande, voyez-vous, parce que c'est ce qui vient de le toucher, cette lumière. C'est passer des lumières à la des ténèbres à la lumière. Maintenant, cet homme, il prie pour quelqu'un d'autre. Il s'agit de ce petit garçon qui est assis ici près de lui. C'est son fils. C'est exact. Maintenant, ce petit garçon, il souffre d'un problème d'estomac et aussi quelque chose aux intestins. C'est exact. Vous n'êtes pas d'ici, vous n'êtes pas de l'Arizona, vous êtes de la Californie. C'est exact. Et vous êtes un ministre. Et vous êtes en communion avec les assemblées de Dieu. C'est vrai. Révérend McKay, ou révérend Kay, c'est exact. Est-ce vrai? Faites signe des mains comme ceci. Maintenant, votre petit garçon ira bien. Votre foi. Maintenant, bon, cet homme est là, les mains levées, il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Mais qu'était-ce? Il a touché le souverain sacrificateur. Maintenant, voyez-vous, il n'a pas pu s'appuyer sur sa propre intelligence. Maintenant, ce qu'il doit faire, ce qu'il reste à faire, il doit croire que ce qui lui a été dit, c'est la vérité, parce qu'il sait qu'il ne me connaît pas. Tenez, il y a une femme assise ici devant moi, elle aussi, elle a la tête inclinée. Elle souffre d'un cancer. Elle aussi, elle vient de la Californie. J'espère qu'elle ne le manquera pas. Mademoiselle Adams, c'est votre nom? Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Oui, c'est vrai. Il y a une dame assise au fond ici. Je peux la montrer simplement du doigt, mais je vois une lumière au-dessus d'elle. Elle a des ennuis sérieux. Une chose, elle a mal au cou. Autre chose, elle a des problèmes spirituels. Elle s'inquiète. Elle fait du souci pour ça. Et elle a un problème familial. Sa fille s'est enfouie dernièrement. C'est exact. C'est vrai, n'est-ce pas? Elle a la main levée. Madame Miller, c'est exact. Croyez-vous? Dieu vous la renverra. Il guérira votre corps. Maintenant, je ne l'ai jamais vue de ma vie. Elle m'est totalement inconnue. Il y a une dame assise ici dans l'auditoire. Elle n'est pas d'ici. Elle aussi est de Californie. Elle a un cancer. Et c'est un cancer du sein. Elle a été opérée à un sein et le cancer s'est propagé à l'autre. C'est exact. Madame Callin, c'est exact. Croyez-vous que Dieu va vous guérir? Vous le croyez. Je suis un inconnu pour vous, madame. Je ne vous connais pas, c'est vrai, voyez. C'est le cancer. Ceci afin que vous sachiez que Dieu est présent. Il y a une dame assise juste à côté d'elle. Son nom est Madame Harris. Elle m'est totalement inconnue. Mais quand l'Esprit a touché cette femme-ci, elle aussi, elle avait de la compassion pour elle. Et elle vient de Californie, c'est exact. Et elle a mal à l'épaule, c'est exact. Croyez-vous que Dieu vous guérira? Si c'est vrai, levez la main pour que les gens voient. Elle m'est totalement inconnue. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Qu'est-ce qui peut faire cela? Ça ne s'explique pas. C'est un paradoxe. Ça dépasse l'explication. Demandez à ces gens. Je ne les ai jamais vus de ma vie. Je ne savais absolument rien d'eux. Et ça pourrait continuer comme ça dans toute l'Assemblée. Mais maintenant, regardez. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence, mais appuyez sur ce qu'il a promis qu'il ferait. N'est-ce pas là le même esprit qui habitait dans une chair humaine, qui savait que Sarah avait ri dans la tente derrière cet homme, pas vrai? Et il a promis, juste avant que le monde soit détruit par le feu, qu'alors le Fils de l'homme se révélerait de nouveau de la même manière que le Fils de l'homme prophétique se révélerait dans une chair humaine, comme il est ici avec nous ce soir, comme il l'avait fait alors. Donc, à quelle heure vivons-nous? Tout près de la destruction. Mon ami, ne restez pas un pécheur plus longtemps. Acceptez Jésus-Christ pendant que vous êtes dans sa présence. Bon, je sais que ce qui se fait d'habitude par les prédicateurs, ils vont supplier, raconter des histoires, parler de maman qui est morte et qui est de l'autre côté. C'est bien, mais nous ne venons pas sur la base de notre mère qui est morte. Ma mère est aussi morte, même chose pour mon père. Mais nous venons intelligemment, en l'acceptant sur la base de ce que Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ pour ôter les péchés du monde. Nous venons et nous croyons dans l'expiation. Et maintenant qu'il a confirmé sa parole, peu importe l'église où vous allez, méthodiste, baptiste, catholique, presbytérienne ou pas d'église du tout, si vous admettez que vous avez reçu une compréhension différente, que vous savez que vous n'êtes jamais vraiment né de nouveau, mais que vous le désirez et que vous désirez l'accepter maintenant, la promesse maintenant, vous ne serez peut-être pas rempli tout de suite, mais vous serez rempli alors que les réunions se poursuivront. Si vous voulez l'accepter sur cette base-là, voulez-vous vous lever? Je vais prier pour vous, tous ceux qui sont ici. Ne vous appuyez pas sur vous-même en disant « j'ai parlé en langue ». Ça n'a absolument rien à voir. Je crois aussi au parler en langue, mais j'ai vu des sorcières, des démons et tout le reste parler en langue et interpréter. C'est vrai. Demandez aux missionnaires ici. Frère Creech, tu sais que c'est vrai. Je les ai vus parler en langue et boire du sang dans un crâne humain, invoquer le diable, certainement. Je les ai vus poser un crayon par terre qui s'est soulevé et a écrit en langue inconnue, et le dorsier qui se tenait là, et le sorcier en a donné l'interprétation. Alors le parler en langue, ce n'est pas le signe que vous avez le Saint-Esprit. Et si ça, si vous parlez en langue et que vous niez cette parole, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, c'est vrai. Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Quelqu'un dira, eh bien, j'ai crié, moi aussi. Mais ne vous appuyez pas là-dessus. J'ai vu toutes sortes de puissants démoniaques crier et hurler. J'ai vu des musulmans pousser des cris et hurler au point de se transpercer les mains. En Inde, je les ai vus crier, sauter en l'air, prendre des boules remplies d'eau et les accrocher dans leur peau et marcher sur des charbons brûlants. C'est vrai. Alors qu'ils renient Jésus-Christ. Voyez-vous, ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence, mais sur la parole de Dieu. Si votre vie n'est pas à la hauteur de cette Bible pour croire chaque parole qui s'y trouve, mais que vous voulez croire et que Dieu fasse sa volonté en vous, vous pouvez être une partie de Dieu. Voulez-vous vous lever et dire, je vais l'accepter maintenant même? Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merveilleux. Que Dieu vous l'accorde. Vous dites, je suis membre d'église, frère Branham, je suis pentecôtiste, mais vraiment, pour ce qui est de dire, vraiment, que je peux croire que toute la parole est la vérité, je ne peux tout simplement pas le faire, mais je veux le faire. Aidez-moi, priez pour moi. Je vais me lever. Vous dites, écoutez, je suis assis ici où j'ai témoigné à cette église que j'en étais là, mais vous le savez au fond de votre cœur que vous n'en êtes pas là. Dieu aussi, il sait que vous n'en êtes pas là, voyez-vous. Alors pourquoi ne pas vous lever? Ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Voulez-vous aussi vous lever d'autres personnes? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Oh, Dieu aide-moi, que Dieu vous bénisse. C'est bien. Continuez simplement à vous lever. Vous dites, est-ce que ça va me faire du bien? Levez-vous une fois, vous verrez. Soyez vraiment sincère. Je veux, frère Branham, je veux marcher droit. Bon, je ne dis pas de quitter votre église. Non, restez là, à l'endroit où vous êtes. Mais soyez une personne vraiment remplie du Saint-Esprit dans cette église-là, c'est tout. Vous dites, eh bien, je ne sais pas ce que mon pasteur en dira. Il vous appréciera s'il est un homme de Dieu, c'est exact. Que votre lumière luise devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient leur Père. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse tous. Maintenant, vous qui êtes levé, si vous vous sentez mieux après vous être levé, levez donc la main pour faire savoir aux autres que vous vous sentez mieux après vous être levé. Voyez-vous, toutes les mains, vous êtes sincères, vous vous levez pour dire, je vais rendre témoignage. Celui qui se tiendra pour moi ici, je me tiendrai pour lui là-bas. Celui qui aura honte de moi ici, devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père et les saints anges. N'ayez pas honte de lui. Ne vous appuyez pas sur votre propre raisonnement, mais appuyez-vous sur la parole de Dieu. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et les saints anges. Y en aura-t-il d'autres avant de prier? Alors courbons la tête. Que Dieu vous bénisse, sœur, bien sûr, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y en aurait un autre là pendant que nous avons la tête inclinée? Que Dieu vous bénisse. Il y en a encore qui se lèvent, attendons un instant. Que Dieu vous bénisse. Vous dites, est-ce que ça signifie quelque chose de dire que Dieu vous bénisse? C'est ainsi que je prononce mes bénédictions sur vous. Que Dieu vous bénisse. Certains d'entre vous qui êtes debout le long du mur, vous n'avez pas de place pour vous asseoir. Voulez-vous simplement lever la main pour dire, « Moi, ô Dieu, c'est de moi qu'il est question. » Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse. Et vous, et vous. Et vous, mon frère. Et vous, ma sœur. Oh, le Saint-Esprit se déplace avec tellement de douceur sur l'auditoire. Pouvez-vous le ressentir? Que Dieu vous bénisse, jeune homme ici sur l'estrade. Que Dieu vous bénisse, au coin là-bas. Que Dieu te bénisse, jeune homme. Oui. Oh, Saint-Esprit, agis fraîchement dans nos cœurs maintenant. Montre-nous nos fautes, Seigneur. Nous ne nous appuierons pas sur notre propre intelligence, mais nous appuyons sur toi parce que nous savons que nous tenons à ta promesse divine confirmée d'aujourd'hui. Et tu t'es fait connaître au-delà de tout raisonnement. Nous ne pouvons pas raisonner ni l'expliquer, mais tu es ici au milieu de nous maintenant. Et tu nous as montré que tu es ici. Et des hommes et des femmes le croient et l'acceptent. Oh Dieu, prends chacun d'eux dans ton sein. Cache-les dans le rocher des âges jusqu'à ce que les feux soient passés. Nous allons bientôt être brûlés, Seigneur, nous le savons. Nous en sommes revenus à Sodome. Mais le juste ne périra pas avec le coupable. Tu appelleras tes enfants, Seigneur. Tu as dit à Lot, sors de là. Sors. Je prie, ô Dieu, que chaque personne qui est dans cet état-là ce soir, qui est là-bas, sans être sûr où ils se tiennent, ô Dieu, ils ne prendraient pas le risque de descendre une rue à contresens. Ils ne prendraient pas le risque de griller un feu rouge s'ils ont toute leur tête, parce qu'ils pourraient se faire tuer. Alors comment des gens peuvent-ils prendre des risques quand il s'agit de leur destination éternelle? Se contenter de supposer, de présumer, de s'aventurer sans autorité pour la raison qu'ils sont membres d'une église ou d'une dénomination. Et vraiment, ils ne peuvent pas comprendre que la parole de Dieu puisse être aujourd'hui telle qu'elle était à cette époque-là, que ses promesses puissent être manifestées. L'âge apostolique, c'est du passé. Aide-les, Père. Je te les confie au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, mon frère, ma sœur. Je suis si heureux de vous appeler mon frère, ma sœur. Souvenez-vous, Dieu me fera répondre de chaque parole au jour du jugement. Tout ce que j'ai prêché ce soir, j'aurai à en répondre. Je suis conscient de ça. Qu'est-ce que j'ai fait depuis petit garçon, sinon prêcher cet évangile, et ensuite je serai rejeté? Maintenant, combien d'entre vous sont malades et affligés si ce soir voulez-vous, compris pour vous, levez la main. Maintenant, voulez-vous faire quelque chose Posez vos mains les uns sur les autres. Imposez-vous les mains les uns aux autres. Que tout le monde courbe la tête maintenant, exactement comme si vous étiez à l'église, ici sur l'estrade. Cher Dieu, au nom de Jésus-Christ, et dans sa présence, une présence qui a été confirmée, la parole même qui a été prêchée a été confirmée, que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, que le Saint-Esprit de Dieu envahisse cette assemblée de gens maintenant. Beaucoup d'entre eux sont venus t'accepter comme leur sauveur. Beaucoup de rétrogrades t'ont accepté et sont revenus. Oh Dieu, je te prie, au nom de Jésus-Christ, de guérir chaque personne. Tu as dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Tu l'as promis, Seigneur. Et les enfants qui croient ont posé leurs mains les uns sur les autres. Satan, tu es vaincu. Sors de ces gens, au nom de Jésus-Christ. Laisse aller ces gens à cause du royaume de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui croient que Jésus-Christ est votre guérisseur maintenant, aussi bien que votre sauveur, et qui voulait l'accepter sur la même base, levez-vous et dites, « J'accepte maintenant Jésus comme mon guérisseur, comme mon sauveur. » Merveilleux! Gloire au Seigneur! Merci Seigneur! Maintenant, levons les mains et chantons pour lui. Je le louerai, je le louerai. Je louerai l'agneau immolé pour les pécheurs. Donnez-lui gloire, vous tous les peuples, car son sang a effacé toutes les tâches. Oh, vous vous sentez bien, n'est-ce pas? Chantons-le encore. Souvenez-vous, cet agneau est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donnez-lui gloire, vous tous les peuples, car son sang a effacé toutes les tâches. Vous aimez ça? Amen. Étendons le bras pour serrer la main à quelqu'un. Nous brisons la glace pour les réunions là. C'est commencé pour la convention. Dites que Dieu te bénisse, frère Pellerin. C'est formidable. Merveilleux. Maintenant, croyez-vous que nous allons avoir une grande convention après ceci? Nous remercions Dieu pour de grandes réunions. Et maintenant, nous allons avoir une grande convention. Que tous ceux qui le croient disent Amen. Ma foi regarde à toi. Toi, agneau du calvaire, regardons à lui maintenant. Sauveur divin, écoute ma prière. Efface mon péché. Oh, que je sois dès ce jour être entièrement à toi. Alors que je marche dans le sombre labyrinthe de la vie, entouré de douleurs, oh, toi, sois mon guide. Que la nuit se transforme en jour. Viens essuyer mes larmes. Que je sois dès aujourd'hui entièrement à toi. Oh, louez-le! Louez l'agneau immolé pour les pécheurs! Donnez-lui gloire, vous tous les peuples! Car son sang a effacé toutes les tâches! Comme c'est merveilleux! Très bien! Courbons la tête maintenant pour la bénédiction. Je ne sais pas qui a été choisi pour ça, frère Johnny Manadal de Californie. Pendant que nous avons la tête inclinée maintenant, n'oubliez pas, demain soir, la convention se passera ici même, dans cette salle, à 7h30. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous apprécié la présence de Dieu? Courbons la tête maintenant pendant que frère Johnny termine la réunion.